Vous êtes sur RTL.
L'équipe de nos petits matins, nous sommes à 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle et RTL va ce matin prendre le pouls du pays au plus près de vous, notamment dans notre ville test d'Emerin, c'est à côté de Lille, et une ville qui vote comme la France en 2017. William Galibert a tendu son micro aux habitants, nous le retrouverons à 7h20. Auparavant, Olivier Bosse nous aura décrit un pays en pleine décantation politique à 6 mois de l'échéance dans son éditorial dès la fin du journal. Autre rendez-vous avec Vincent Serrano qui a suivi, lui, la distribution alimentaire en augmentation de 70% auprès de nos étudiants. Reportage à écouter dès 7h15. Mais l'invité de cette matinale est lui aussi un témoin, voire un acteur de notre vie sociale et politique. On ne l'avait pas vu venir, puisqu'il s'agit de Cyril Hanouna, qui publie demain, avec notre confrère Christophe Barbier, ce que m'ont dit les Français. Cyril Hanouna répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40 et vous pourrez l'interroger, vous aussi, à partir de 8h20. Que pensez-vous de son engagement très clair aujourd'hui dans la vie du pays? Est-ce son rôle? Retrouvez-vous le Hanouna que vous avez aimé, notamment sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions dès maintenant au 3210 pour dialoguer avec lui ou par SMS au 64 900, code matin. Le témoin est-il devenu acteur? Je lui poserai la question. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021. Très bonne journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la panne Facebook est réparée, mais l'addition est salée pour Mark Zuckerberg.
Il a perdu 7 milliards de dollars dans l'affaire en quelques heures. Rassurez-vous, il lui en reste un peu, 120 milliards en tout, mais l'image du groupe en prend un coup. La panne a été mondiale. Jamais on n'a su les écouter, ou pire encore, jamais on ne les a crus. Combien d'enfants ont été victimes de religieux pédophiles dans le secret des pensionnats ou des camps scouts catholiques? La parole s'est libérée et le rapport rendu tout à l'heure à 9h s'annonce comme un choc pour le pays. Dans ce journal également, entre 100 et 300 euros pour un faux pass sanitaire. Enquête RTL ce matin, 22 000 fraudeurs sont dans le collimateur de la justice. Et puis Kylian Mbappé, sifflé en début de saison, sort du silence. Oui, il a été déçu de ne pas partir au Real Madrid, mais promis aujourd'hui, c'est oublié. Il est 100% impliqué.
La politique, Olivier Bost.
Et à 6 mois du premier tour de la présidentielle, il faut encore que ça décante.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, ça a peut-être été votre premier geste ce matin. À peine un œil ouvert, vérifiez que Facebook, Instagram ou WhatsApp fonctionnent normalement. A priori, oui, ça marche à nouveau. Le groupe Facebook a été touché par une panne géante mondiale hier en toute fin d'après-midi, heure française. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
On vous retrouve à New York. Que s'est-il passé, Lionel? Et d'abord, est-ce que tout est réparé?
Il semble que oui, les équipes d'intervention étaient sous pression. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont à nouveau actifs sur tous les continents. Des milliards d'utilisateurs ont été importunés, parfois pénalisés pour travailler ou pour des communications d'urgence. Alors le géant californien a expliqué il y a 2 heures ce qui s'était passé. Des changements de configuration dans les serveurs. Une erreur technique donc. En fait, Facebook n'avait plus d'adresse numérique et une plateforme doit avoir une adresse pour exister sur Internet.
Alors Lionel, cette panne est un coup dur pour l'image de Facebook et Mark Zuckerberg a perdu dans l'affaire beaucoup d'argent.
Il a perdu 7 milliards de dollars. Il lui reste 120 milliards, donc pas d'inquiétude pour lui. L'action de son groupe a perdu près de 5% à cause de la panne mondiale, certes, mais l'action était déjà en baisse. Depuis, les déclarations d'une femme dimanche soir à la télévision, Frances Haugen, ancienne ingénieure chez Facebook, selon elle, document à l'appui, la compagnie aurait négligé la sécurité des utilisateurs, notamment des adolescents. Elle va s'exprimer aujourd'hui devant les sénateurs, une audition très attendue.
Merci Lionel Gendron, correspondant RTL aux États-Unis. Et puis les malheurs de Facebook, en l'occurrence, font le bonheur des autres. Les messageries Telegram ou Signal, concurrentes de WhatsApp, ont vu bondir le nombre de leurs téléchargements pendant cette panne mondiale.
Il est 7h03. Combien d'enfants, d'adolescents ont été victimes de religieux pédophiles depuis les années 50? La vérité devrait éclater aujourd'hui.
Oui, le rapport de la commission indépendante va être donc donné tout à l'heure à 9h, après 3 ans d'un travail à la fois inédit et colossal. Les experts ont recueilli des milliers de témoignages. Les conclusions vont être un choc pour l'Église catholique et pour tout le pays. On devrait être bien au-delà des 10 000 victimes envisagées initialement. La parole s'est visiblement libérée, celle d'Agnès, en tout cas par exemple, qui a 61 ans aujourd'hui.
Je me dis, enfin on nous entend, enfin on nous considère, enfin on ne nous prend pas pour des dingues. On m'a écouté, on m'a cru, on ne m'a pas remise en question. Ça a pris 50 ans, oui. Les choses que j'avais vécues enfant, je n'en avais parlé à personne. Dans ce pensionnat, c'était dur. On n'avait pas le droit de parler dans les dortoirs. Quand la lumière était fermée, il y avait une religieuse âgée qui montait et qui s'asseyait à côté de moi et elle mettait la main sous le drap et me caressait d'une façon que je trouvais pas du tout évidente. Je comprenais pas. J'avais par contre une énorme angoisse, une grande envie de vomir. Donc, j'étais complètement perturbée, évidemment, je travaillais mal et puis j'ai commencé à devenir difficile. Ensuite, je me suis arrangée comme j'ai pu de ma vie. J'avais plein de troubles, plein de problèmes. J'ai eu un enfant, mais je n'ai pas réussi à construire une famille. Non, je ne pouvais pas. Il y a des dégâts qui font que la sexualité ne s'installe pas correctement. Même si vous êtes avec quelqu'un de bienveillant, ça pose d'énormes problèmes. Vous faites, entre guillemets, comme vous pouvez.
Le traumatisme et la parole d'Agnès, libérée 50 ans après les faits, propos recueillis par Marie Guerrier, qu'on retrouve tout à l'heure pour un dossier complet dans le journal de 8 heures. Cette commission qui, en plus d'un état des lieux complet, promet de rendre des préconisations strictes sur les mesures de prévention à mettre en place. En bref, Météo France a levé toutes les vigilances pluie, inondations dans le sud-est et en Corse. Mais Marseille s'inquiète des conséquences écologiques des inondations records d'hier. Du fait de la grève des éboueurs, des tonnes de déchets agglutinés dans les rues se sont déversées dans la mer. Et puis la crise sanitaire a fait mal aux étudiants. La précarité s'est aggravée l'année dernière. Plus 70% pour le nombre de prises en charge par le Secours Populaire. C'est une information RTL. Et Vincent Serrano pour la brigade RTL est retourné à la rencontre de ces jeunes à Paris dans le 13e arrondissement qui, régulièrement le soir, vont récupérer des colis alimentaires pour se nourrir. Rendez-vous tout à l'heure là-dessus à 7h15.
Il est 7h06. Dimanche prochain, nous serons donc à 6 mois, jour pour jour du premier tour de l'élection présidentielle. Et un homme à droite continue à croire à son destin.
Oui, Michel Barnier, qui est pour l'instant derrière Xavier Bertrand et Valérie Pécresse dans les sondages, mais l'ancien négociateur en chef du Brexit n'entend pas renoncer, Thomas Després.
Oui, il rêve de réitérer la surprise de la primaire de 2016. Souvenez-vous, François Fillon, alors très loin des radars médiatiques, l'emportait haut la main devant Alain Juppé. Alors les proches de Michel Barnier vendent son expérience. Il a été deux fois ministre. Et son côté rassembleur, il est capable d'aller des sarkozistes aux centristes, confie un lieutenant. D'ailleurs, il accumule les soutiens et même les plus inattendus, comme la très à droite Nadine Morano. Il faut dire que le discours de Michel Barnier s'est durci, sur l'immigration notamment. En coulisses, on dit même que Laurent Wauquiez verrait d'un bon œil sa désignation. Mais surtout, il n'a jamais quitté sa famille politique, contrairement à ses principaux rivaux. Une fidélité que lui reconnaissent aujourd'hui les militants. Oui, mais voilà, les sondages, eux, ne sont pas encourageants. Selon les enquêtes, ils ne dépasseraient pas les 11%. Commentaire d'un député sceptique, on n'est pas là pour désigner un chef de parti, mais celui qui sera le plus à même de l'emporter à la fin.
Merci Thomas Després. Et donc, matinale spéciale sur RTL à 6 mois du premier tour. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos préoccupations? William Galibert est donc parti en reportage dans cette ville d'Emerin, près de Lille. 3200 habitants qui ont la particularité d'avoir voté au 10e près, exactement comme les Français en 2017. On retrouve William et son reportage en direct tout à l'heure à 7h20.
Et bien justement, ce que m'ont dit les Français, c'est le titre du livre que publie Cyril Hanouna avec Christophe Barbier aux éditions Fayard. Il sort demain et Cyril sera avec nous. Il répondra aux questions d'Alba Ventura à 7h40 et aux vôtres au 64 900 code matin ou au 32 10 à partir de 8h20.
Les détails RTL maintenant sur la journée d'hommage à Bernard Tapie jeudi à Marseille. Selon les informations de Christian Olivier, il y aura une procession en fin de journée des plages du Prado jusqu'au parvis du stade Vélodrome où les Marseillais pourront se recueillir près du cercueil qui sera installé donc devant le stade et non pas à l'intérieur pour des raisons de sécurité.
Dans un instant, le business des faux passes sanitaires. Ben oui, ils se vendent entre 100 et 300 euros. C'est une information RTL. 22 000 fraudeurs. 22 000 sont dans le collimateur de la justice. On vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin. RTL Matin.
7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. La justice traque les fraudeurs du pass sanitaire.
Oui, et ce QR code qui fait partie de nos vies depuis maintenant la fin du mois de juillet. Eh bien, la justice, c'est une information RTL, a déjà ouvert 157 enquêtes pour démasquer les resquilleurs, Alice Moreno.
Oui, ces enquêtes visent plus de 22 000 bénéficiaires. Le phénomène de fraude touche toute la France et il est lucratif. Les faux passes sont revendus entre 100 et 300 euros en moyenne. Les services d'enquête ont identifié trois grandes techniques de fraude. Parfois, c'est un professionnels de santé qui enregistrent de faux actes de vaccination pour obtenir des QR codes. Ce peut être aussi l'utilisation d'identifiants de connexion attribués à des professionnels de santé et qui sont usurpés. Ils permettent de se connecter sur le site Vaccin Amélie Pro, une plateforme dédiée à l'enregistrement d'actes de vaccination et à l'édition de faux passes. Enfin, la fraude la plus fréquente, c'est tout simplement l'utilisation d'un pass sanitaire au nom d'un tiers réellement vacciné. Cette dernière technique fait normalement l'objet d'une contravention, mais elle peut être judiciarisée en cas de réitération. Jusqu'à 6 mois de prison ferme sont prévus si un fraudeur est pris en flagrant délit pour la 3e fois.
Merci beaucoup Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
On en vient à la mise au point de Kylian Mbappé, enfin mise au point ou mise au pied, je ne sais pas.
En tout cas aujourd'hui dans l'équipe, effectivement, après le début de saison compliqué de l'attaquant du PSG sifflé à plusieurs reprises après l'épisode Real Madrid, il reconnaît qu'il a voulu partir au Real, mais aujourd'hui il le jure, il est 100% impliqué avec son club, le PSG.
Merci Kylian. Les courses, elles ont lieu à Chantilly.
Voici les pronostics de Dominique Cordier: le 4, le 3, l'As, le 16, le 7, le 14 et le 13. La dernière minute, c'est le 7.
Et le journal nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h11, on retrouve notre éditorial politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À 6 mois du premier tour, il faut encore que ça décante.
Bah oui, il faut encore que la situation se clarifie, parce que ce que nous apprend l'histoire des présidentielles, c'est que les chutes sur le parcours sont nombreuses et que 6 mois avant, il y a toujours encore beaucoup trop de prétendants. Certains ne prendront même pas la ligne de départ, d'autres finiront très abîmés. À ceux qui trouvent que l'on parle trop d'Éric Zemmour tous les matins, à ceux qui trouvent qu'on en fait trop sur l'imbroglio de la droite pour choisir un candidat, et à ceux qui trouvent que nous considérons déjà trop vite que le président sera réélu, eh bien je dis, attendez, vous n'avez encore rien vu.
Alors c'est vrai que, pour ne pas remonter très loin d'ailleurs, dans l'élection de 2017, nous étions encore loin d'être fixés à la même période.
Oui, Alain Juppé n'avait pas chuté dans la primaire, François Hollande n'avait pas encore renoncé, Manuel Valls n'était pas encore candidat à la primaire avant de chuter à son tour, Yannick Jadot ne s'était pas encore rallié à Benoît Hamon, François Bayrou n'avait pas renoncé pour soutenir Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte du nombre d'événements politiques que cela représente sur une campagne présidentielle? Des événements que, pour beaucoup, nous réévaluons ensuite pour mieux saisir leur importance. Autant dire que la situation 6 mois avant l'échéance de 2017 n'indiquait pas grand-chose de l'ascension d'Emmanuel Macron et de sa victoire. Pourtant, tous les éléments, ou presque, étaient là. Un espace politique était en train de s'ouvrir. C'est le fameux alignement des planètes.
Alors, 5 ans plus tard, la seule chose évidente, c'est qu'Emmanuel Macron conserve, lui, son espace politique.
Vous avez raison, de 23 à 24, 25% des intentions de vote. Il y a longtemps qu'un président sortant ne s'était retrouvé en position aussi favorable. Il faut remonter à François Mitterrand en 1987, c'est vous dire. À une différence près quand même, nous étions encore à l'époque dans le balancier classique gauche-droite. Là, pour l'instant, le seul constat que nous pouvons faire, c'est que le niveau pour accéder au second tour baisse de jour en jour. L'éclatement de l'extrême droite, la tenue de la droite et une gauche totalement éparpillée n'offrent aucune visibilité. Ce morcellement et cette baisse du ticket pour le second tour ne vont pas dans un premier temps dissuader les candidatures, bien au contraire. Nous n'avons donc encore rien vu.
Et c'est justement pour cela que c'est passionnant. Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, je vous le rappelle, Cyril Hanouna est l'invité d'Alba Ventura. L'animateur-producteur sort donc un livre co-écrit avec notre confrère Christophe Barbier. Ce que les Français m'ont dit, il paraît demain aux éditions Fayard. Et vous pourrez vous aussi interroger Cyril Hanouna dès 8h20. Appelez-nous dès maintenant au 3210 ou par SMS au 64 900, code matin.
Yves Calvi, RTL Matin.
Et nous nous intéressons ce matin, avec notre brigade RTL, à la précarité étudiante. Je vous donne ce chiffre tout à fait marquant. 63 000 étudiants ont été pris en charge en 2020 par le Secours Populaire. C'est une hausse de 70% par rapport à l'année 2019. Alors, en cette rentrée universitaire, quelle est la situation de nos étudiants? C'est la question qu'on se pose avec vous, Vincent Serrano. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On se souvient tous de ces images l'année dernière de centaines d'étudiants faisant la queue pour des colis alimentaires dans le 13e arrondissement de Paris. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, Vincent?
C'est même pire. Ils sont plus de 200, plus d'une heure avant le début de la distribution. Vous en avez qui sont assis à même le sol avec leur ordinateur, leur cahier pour continuer à travailler avant de rentrer chez eux. Et les vivres qui seront distribués aux étudiants, plus de 2 tonnes. Votre prénom ?
Philomène.
Première fois que vous venez ici ?
Oui, parce que il nous reste plus beaucoup d'argent. Ouais, on regarde le moindre centime. Mon temps de ma bourse, elle a diminué depuis l'année dernière. Avant, j'étais à 400. Et maintenant, je suis à 200. Pas mal d'anxiété à la fin du mois. C'est dur, en fait, de tenir le coup. Et parfois, ça m'arrive de ne pas manger. Mais il y a des cas pires que moi, je pense. C'est assez terrifiant de voir le monde qu'il y a ici. Mais ça ne m'étonne pas non plus ce qui se passe ici.
Alors, on va passer de l'autre côté des immenses tréteaux en bois qui sont installés ici pour la distribution, pour se rapprocher de vous. Julien, vous êtes le directeur de Linky, cette association, ces t-shirts bleus-là. Ça n'arrête pas.
Nous, on a fait une étude l'année dernière sur tous les étudiants qu'on a accueillis. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 97% des étudiants qui vivaient sous le seuil de pauvreté, qui en avaient 8 sur 10 qui sautaient des repas ou qui réduisaient leur alimentation pour pouvoir tenir, qu'il y en avait 3 sur 4 qui avaient envisagé un moment ou un autre d'arrêter leurs études. Ce sont des chiffres qui dépassent la précarité alimentaire et qui doivent tous nous faire sursauter.
Et avec le Covid et la baisse du pouvoir d'achat pour les étudiants, ils ont dû faire en fait des choix, Vincent.
Alors pour ça, on a suivi Camille jusque chez elle, dans son petit appartement de 10 mètres carrés. Si je vous demande d'ouvrir le frigo, il y a quoi dedans ?
Il n'y a pas grand-chose. Des œufs, des fruits.
Il y a plein de dépenses du coup que vous ne faites plus.
Ouais, de la viande, plus de cinéma, plus de verre non plus.
Et vous me disiez, vous avez déjà renoncé à des soins.
Dentiste, je sentais que j'avais une carie et je devais y aller, sauf que j'avais pas assez sur mon compte pour pouvoir avancer l'argent en attendant qu'on me rembourse.
Ce qui fait écho à un chiffre avancé par la FAGE, 2 étudiants sur 5 ont renoncé à des soins depuis mars 2020. 4 étudiants sur 10, de manière générale, avouent avoir des difficultés financières pour se soigner. En tout cas, la situation va s'arranger pour Camille, puisqu'à la fin du mois, elle devrait signer enfin un premier contrat de travail.
Merci beaucoup Vincent Serrano pour ce reportage au cœur des distributions alimentaires visant en particulier nos étudiants. Dans un instant, suite de notre matinale spéciale Élysée 2022, nous serons à 6 mois pile du premier tour de l'élection dimanche et nous allons à votre rencontre pour connaître vos attentes, vos besoins. Nous prendrons la direction d'Emerin dans le département du Nord. C'est la ville qui a voté exactement comme la France en 2017 au premier tour et c'est bien entendu notre ville test. Nous y retrouverons William Golibert dans un instant.
RTL événement.
RTL, il est très exactement 7h19. Élysée 2022, le premier tour est dans 6 mois. Nous avons choisi cette semaine d'aller prendre le pouls de la France. Quelles sont vos préoccupations au quotidien? Pensez-vous déjà à l'élection? Qu'attendez-vous de la campagne? Vous intéressez-vous déjà aux candidats? Et puis savez-vous d'abord pour qui vous allez voter? Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Ensemble, nous partons donc à Emerin, 3200 habitants. C'est une petite commune du Nord, près de Lille. Pourquoi Emerin? Bien parce qu'au premier tour, en 2017, la commune a voté exactement comme le reste du pays. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon ont obtenu les mêmes scores à Emerin qu'au niveau national. C'est comme une petite France en miniature.
Oui, c'est ça. Lille est à peine 3 minutes, mais dans les rues d'Emerin, personne ou presque personne. Ah voilà, enfin quelqu'un qui approche. C'est un homme qui balade son chien.
Vous avez un peu de temps là, vous vous baladez avec le chien?
Je rentre chez moi dans plus
hey, votre prénom c'est quoi?
Patrick. Patrick. Je suis à la retraite depuis le Covid alors donc...
Ça se balade. Ça ressemble à quoi la vie ici?
C'est une vie, comment dire, ici il n'y a rien, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il n'y a plus rien, de toute façon vous avez vu la boulangerie elle est fermée complètement. Il reste 2 cafés, c'est tout. Il n'y a plus rien. Donc la vie, c'est une ville dortoir comme je dirais. Hein. Il n'y a rien de plus.
Est-ce que ça a toujours été un peu comme ça? Parce que avec la proximité de Lille...
Il y avait 2 ou 3 boucheries, 2 boulangeries, il y avait d'autres choses.
Et pourtant, à Emerin, il reste encore une poste, une pharmacie, des cabinets médicaux, des associations. Mais ce sentiment que la commune s'éteint est très présent. Sentiment aussi que la présidentielle n'y changera rien.
Alors justement, William, cette élection, on vous en dit quoi?
Suivez-moi, on va en parler autour d'un café avec Patricia. Alors il faut juste se faufiler entre son portail et ses 2 bergers allemands.
Viens dire bonjour, c'est mon copain. Bonjour mon copain. Viens doudou, c'est mon copain. Je dis c'est mon copain.
Bon, Patricia, c'est toute une histoire. Elle a tenu le bar tabac à Emerin pendant plus de 10 ans. C'est un sacré caractère, beaucoup de générosité. On a parlé de plein de choses, de son village, de la vie. Malheureusement, je ne peux pas tout vous faire écouter. Mais oui, on a aussi évoqué cette élection qui vient.
Vous savez, au départ, ils ont tous un beau programme, mais à l'arrivée, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce que vous allez regarder en particulier au moment de choisir
L'immigration. Il faut arrêter. Je ne suis pas raciste, loin de là. Mais il faut arrêter avec cette immigration. Hein. Oh, ben non, ici, on n'est pas embêté du tout. Mais je sais pas, vous allez à Lille, voyez l'insécurité, vous. Mais sans moi en sécurité depuis une vingtaine d'années, je crois, à cause de cette immigration, je crois. Ouais. Puis bon, c'est des gens qui nous coûtent cher, monsieur. Ils n'ont jamais cotisé de rien, il leur faut de l'argent. Ils ont le droit de manger, ces gens-là, quand même. Les camps de Rome, il fallait pas les laisser rentrer. Doudou, viens. Viens, moi, Doudou, viens. Bien, ouais. Doudou, il va prendre son bisou. Mais on ne peut pas les laisser vivre dehors comme des chiens. Moi, mes chiens ne vivraient même pas comme ils vivent. À chaque fois que je vais quelque part, qu'on parle un peu de tout, quoi. La discussion, elle tourne sur l'immigration et la fermeté. Hein.
L'écologie, un peu moins.
Moi, je ne me sens pas concernée par l'écologie du tout. Du tout. Alors, je ne vais pas me cacher, je suis de droite, voilà. Et je vais voir qui se présente à droite.
Zemmour, vous entendez, vous avez écouté déjà ce qu'il dit, ce qu'il fait?
Il est inquiétant. Il me fait peur. Il est inquiétant. Déjà, physiquement, malheureusement, il n'a pas été gâté par la nature. Ses propos m'inquiètent quand même. Ça m'inquiète, ouais.
Je vous avais prévenu que c'était toute une histoire avec Patricia. Alors, on va terminer notre petit tour d'Emrin chez Jeff, qui a repris un restaurant il y a 2 ans. Ça s'appelle Le Comptoir. À la carte, ce jour-là, il y avait...
du carré d'agneau, de la carbonade, des produits locaux. Que du fait maison.
Alors, Jeff m'a prévenu, quand on dirige un restaurant, il y a 2 sujets tabous, la religion et la politique. Donc, respect, je ne lui ai pas demandé pour qui il allait voter, mais plutôt ce qu'il attendait des candidats.
Si on baisse déjà un peu les charges, on peut rémunérer mieux nos salariés. Quand on voit ce qu'on donne à un salarié et qu'on en donne la moitié à l'État, il faut faire quelque chose. En expérience sur l'île, combien j'ai fait d'entretiens que les personnes m'ont carrément dit « Venir travailler pour gagner ça, autant que je reste chez moi, je gagne plus à rester chez moi. Je n'ai pas besoin de me lever. Et en plus, j'aurai la CMU. Qu'est-ce que vous voulez faire ?»
Fiscalité, coût de la vie, facture qui grimpe, mais aussi donc sécurité, désertification, immigration, même si la commune n'est pas directement concernée. Alors c'est sûr que cette balade dans Emrin n'est pas un sondage, mais voilà de quoi on m'a parlé. Oui. Avec une autre constante, Yves, la présidentielle 2022 est très très loin dans les têtes et ne suscite pour l'instant absolument aucun enthousiasme.
Merci beaucoup William Galibert, c'était passionnant ce reportage. Nous retournerons à Emrin dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour revoir Patrick, Patricia, Jeff et tous les autres habitants de la commune, et pour continuer à parler et échanger avec eux en ligne de mire l'élection présidentielle. Nous sommes très exactement, je vous le rappelle, à 6 mois dimanche.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est grand temps de découvrir notre pépite musicale du jour. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on va faire un tour dans les disques collecteurs de Julien Clerc. Julien Clerc a eu 74 ans hier, 74 dont 53 de chansons, ça force le respect. Et dans ces pépites, eh bien, il y a ces enregistrements en langues étrangères. Alors on n'est pas dans la génération yéyé, il n'y en a pas énormément. Les vinyles sont rarissimes. Au début des années 70, Julien Clerc a toutefois enregistré quelques chansons en espagnol pour le marché argentin, une chanson en italien et quelques-uns de ses morceaux en allemand. On adore les versions allemandes. Oh si. On va en écouter 2 pour démarrer. Oh Julien Clerc chante La Californie en allemand. La chanson devient In America.
Mein America, das war reich und gut, und es hatte Freunde und hatte Mut. Und ich ritt im Traum über die Prärie und ging durch die Städte meine Fantasie.
C'est un document. La Californie en allemand devient une America. Et le texte est proche de l'Amérique de Joe Dassin. C'est assez curieux d'ailleurs. Autre pépite, c'était la face B d'un autre 45 tours sorti en Allemagne en 1972. La version par Julien Clerc de sa chanson Niagara.
Oui.
En allemand, le morceau devient Hey Barbara.
Hey Barbara, c'est l'amour qui te fera du franc mama. Hey, oder frag sie besser nicht. Halt lieber nicht gleich morgen früh, wird was in den Zeiten stehen, doch bestimmt kein bla bla bla.
Kein bla bla bla.
Il a fait allemand première langue ou pas c'est...
Écoutez, il l'emporte.
Ah mais oui, il y va. Oui.
Voilà, version collecteur de Julien Clerc en allemand. Julien Clerc, infatigable, se lancera fin novembre dans une nouvelle tournée marathon intitulée Les Jours Heureux.
Pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain.
À demain.
Et je rappelle qu'on peut réécouter à tout moment votre pépite musicale, c'était vraiment le cas aujourd'hui, sur l'appli RTL. Nous allons retrouver les fake news de nos grosses têtes dans un instant et nous ferons un point météo avec Louis Baudin que je salue.
Bonjour Yves.
RTL Matin.
Vous les retrouvez dès 15h30 tous les jours sur l'antenne d'RTL. On va profiter de quelques fake news avec nos grosses têtes.
On commence par Pierre Palmade.
C'est ce qui s'appelle un scoop, parce que sur BFM TV, un reporter vient de retrouver une personnalité qui n'a jamais croisé Bernard Tapie.
Philippe Gueluc. C'est officiel. L'hommage national à Bernard Tapie n'aura pas lieu dans
la cour des Invalides, mais dans la cour du siège du Crédit Lyonnais. C'est Christine Lagarde qui fera le discours.
Julie Leclerc.
Paris-Roubaix dans la boue et la gadoue, vous le savez, il a fallu passer à la douche les trois premiers cyclistes pour savoir qui avait gagné. C'est Yannick Jadot qui les a départagés.
Et on termine par Gérard Jugnot.
Prix de l'Arc de Triomphe, on ne peut pas vous le dire. C'était sur l'emballage et tout a été foutu à la poubelle ce matin.
Rendez-vous avec vos grosses têtes dès 15h30. Louis Bonin, comment s'annonce cette journée? La perturbation se poursuit?
Alors oui, une nouvelle arrive par l'ouest. Non, la grande nouvelle, c'est que près de la Méditerranée, quand même, ça y est, c'est fini. Hein. Ça s'est calmé durant la nuit. Et donc aujourd'hui, même si on retrouve quelques pluies cet après-midi, ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a connu ces derniers jours. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'une nouvelle perturbation traverse la France. Bon, c'est un peu normal à cette période. C'est une petite bande de 200 km à peu près, vous voyez, qui traverse. Alors elle arrive sur l'île de France, hein, d'ici une heure à peu près. Elle est déjà passée sur la Bretagne où on retrouve des éclaircies. Cet après-midi, elle sera dans la moitié est, donc nuages. Pluie, le vent sera assez fort, 80 km/h sur les côtes de la Manche, 60 à 70 dans les terres, sur toute la moitié nord notamment. Et puis dans le sud-est, on aura là aussi le passage de cette perturbation, mais beaucoup plus atténué. Les températures, un peu juste pour la période, hein, 15 à 18 degrés, faut s'y faire cet après-midi dans la moitié nord, 18 à 20 degrés dans la moitié sud, et 23 à 25 degrés quand même entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci Louis, et merci à vous qui écoutez RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 5 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à Marseille, après l'alerte aux pluies, l'alerte à la pollution, la vigilance inondation a été levée hier soir dans tout le sud-est. Mais dans la cité phocéenne, il est tombé en une nuit l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Après une semaine de grève des éboueurs, les rues se sont transformées en rivières de déchets, d'où l'inquiétude d'Isabelle Poitou, directrice de l'association Mère Terre à Marseille.
Quand j'ai vu l'annonce de la météo, je me suis dit bon sang, et je regardais ces montagnes de déchets, je me suis dit ça y est, c'est parti. Ils vont être transportés sur de longues distances. Hein. Le vent transporte les 2-3 premiers mètres de surface d'eau et ils transportent les déchets avec eux. Dans 2-3 jours, on a un coup de mistral, donc une partie va revenir s'échouer sur les plages, mais il y en a une partie qui va couler et qui va alimenter cette espèce de puits sans fond de déchets qui s'accumulent depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Propos recueillis par Patrick Tégéraud. Marseille qui va rendre un bel hommage à Bernard Tapie. Selon les informations d'RTL, une procession aura lieu jeudi soir derrière la dépouille du boss des plages du Prado jusqu'au stade Vélodrome. Les Marseillais pourront ensuite se recueillir devant le cercueil sur le parvis du stade. Les obsèques seront célébrées le lendemain à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure par l'archevêque Jean-Marc Aveline.
Dans sa vie, il n'y a pas que des choses que l'on peut monter au pinacle, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir vécu sa vie jusqu'au bout, et malgré le combat contre la maladie, il n'a pas négligé de prendre part à d'autres joutes. Et donc ça lui donne une espèce d'authenticité, de sincérité qui le rend proche des gens. Je comprends ainsi, moi, toute l'émotion de cette ville. Alors on ne va pas le canoniser, mais voilà, on peut dire toute l'affection qu'on a pour lui.
Monseigneur Aveline, au micro RTL, Hugo Hamelin.
Au procès des attentats du 13 novembre, le Bataclan veut être reconnu comme victime.
Oui, ce n'est pas le cas actuellement. Le parquet antiterroriste a écarté tous les lieux des attentats comme partie civile, car juridiquement parlant, ils n'ont pas été victimes de meurtres aggravés. Une aberration pour Marie Bourque-Bourou, l'avocate du Bataclan.
Je suis choquée, je suis dans l'incompréhension, je suis dans une forme de sidération. Rien, aucune règle ne justifie que le Bataclan, et avec le Bataclan les autres établissements, rien ne justifie légalement qu'il ne soit pas présent dans ce procès. Pour moi, c'est tout à fait inconcevable, voire inconvenant, de la même façon que personne n'aurait pu imaginer que le procès de Charlie Hebdo puisse avoir lieu sans Charlie Hebdo.
Propos recueillis pour RTL par Cindy Hubert. On est prévenu, l'Église de France va connaître aujourd'hui un véritable séisme avec la publication du rapport Sauvé. La commission indépendante sur les violences sexuelles dans l'Église a travaillé près de 3 ans. 250 personnes ont été longuement auditionnées et l'on sait déjà que depuis les années 50, environ 3000 religieux ont été des prédateurs. Un chiffre ce matin, et c'est une information RTL, 157 enquêtes ont été ouvertes pour fraude au pass sanitaire depuis sa mise en place en juillet. Ce mardi est une journée de grève. Plusieurs syndicats et organisations de jeunesse appellent à manifester partout en France pour défendre les salaires, comme l'explique Denis Gravouille de la CGT.
Il y a une question de pouvoir d'achat, il y a une question de survie, d'augmentation de la précarité. On est face à un gouvernement qui multiplie des réformes qui augmentent les inégalités, comme par exemple la réforme de l'assurance chômage. Je veux bien entendre qu'il y ait les élections, mais ça ne suffit pas à permettre de faire n'importe quoi, y compris ce qui n'était pas prévu dans le programme électoral, et de refuser d'entendre les plus précaires, les plus pauvres, les salariés les plus modestes. Il n'y a pas que les élites pensantes et bien payées.
Denis Gravouille au micro RTL d'Anaïs Bouissou. À Paris, le cortège partira de la place de la République à 14h, direction l'Opéra. On en a beaucoup parlé. À partir du 1er novembre, les pneus neige seront obligatoires dans de nombreuses communes de montagne. Mais finalement, il n'y aura pas d'amende cette année. Le ministère de l'Intérieur mise dans un premier temps sur la pédagogie. Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp et Messenger sont de nouveau actifs. Mais le géant du numérique vient de vivre une crise sans précédent. Une panne géante qui a paralysé les deux réseaux sociaux et les messageries pendant plusieurs heures. Le titre a chuté de plus de 4% hier soir en bourse. Le patron, Mark Zuckerberg, a perdu plus de 6 milliards de dollars.
Et puis Isabelle, de la fiction à la réalité.
Et oui, l'acteur William Shatner, qui jouait le célèbre Captain Kirk dans Star Trek, fera partie de la prochaine mission spatiale de Blue Origin dans quelques jours. L'acteur canadien est âgé de 90 ans. Il va devenir, Lionel Gendron, le plus vieux touriste de l'espace.
L'espace, l'ultime frontière.
Contrairement à ses missions à la télévision puis au cinéma, le capitaine Kirk n'aura pas à se soucier du retour sur Terre. Le voyage dure seulement 11 minutes, le temps d'aller à 100 km d'altitude pour quelques secondes en apesanteur. Dans un communiqué, l'acteur canadien a déclaré qu'il entendait parler de l'espace depuis longtemps, l'occasion de le voir de ses propres yeux.
J'espère que vous savez ce que vous faites.
Moi aussi.
À 90 ans, il deviendra donc la personne la plus âgée en orbite. À ses côtés, la semaine prochaine, pas de Monsieur Spock, son compagnon aux oreilles pointues, mais la vice-présidente de Blue Origin. Avec ce casting, l'entreprise de Jeff Bezos s'assure à nouveau une belle publicité. William Shatner, alias Capitaine Kirk, commandant de l'Enterprise, était une incarnation du mythe des voyages spatiaux. Il symbolise désormais le passage du mythe à la réalité.
Correspondant d'RTL à New York.
On se fait un peu plaisir avec tous ces
génériques. Absolument.
Bon, nous on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, retour sur Terre. Je vais vous raconter l'histoire de la montre perdue d'Hitler, montre qui vient de réapparaître à Paris.
À tout à l'heure Isabelle, merci beaucoup. Dans un instant, François Langlais, direction, nous emmène en Algérie alors que la France vient de durcir l'octroi des visas. Eh bien François va faire un point sur la situation du pays, c'est pas brillant.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, Langlais-Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Les relations entre l'Algérie et la France se sont tendues ces derniers jours, François, tout comme celles d'ailleurs entre l'Algérie et l'Espagne. Un raidissement qui s'explique aussi par la profonde crise économique qui étreint le pays.
Oui, ce sont des propos d'Emmanuel Macron critiquant le régime en place à Alger, propos rapportés par le journal Le Monde et non démentis par l'Élysée, qui ont déclenché la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions militaires français. Et il y a quelques jours, c'était la diminution du nombre de visas accordés par la France qui avait provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien. Quant à l'Espagne, elle pourrait voir couper le principal gazoduc partant d'Algérie à partir du 31 octobre, ce mois-ci. Catastrophe pour Madrid, ça serait vraiment une catastrophe, parce que le pays voit ses approvisionnements de gaz pour moitié venir d'Algérie. C'est le Maroc que vise en réalité l'Algérie, le Maroc traversé par le fameux gazoduc et qui en tire des redevances importantes. Oui. Autant d'initiatives belliqueuses d'un régime algérien qui cherche à dériver le mécontentement populaire dans un nationalisme exacerbé.
Mais quelles sont les causes réelles de ce mécontentement ?
Le lent effondrement du pays, il n'y a pas de crise à proprement parler, mais une détérioration progressive qui a été aggravée par l'épidémie l'année dernière avec une chute du PIB de 6%. Que la petite reprise de 2021 sera loin d'effacer, 12% de chômeurs concentrés chez les jeunes, un tiers de la jeunesse privée d'emploi et surtout une économie monoproduit qui n'est pas parvenue à se diversifier.
Alors le produit unique, ce sont les hydrocarbures.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Et il y a quelques 12 milliards de barils de réserves de pétrole, 150 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui fait du pays le 7e producteur mondial. Mm-hmm. Sans compter les ressources du schiste qui ne sont pas exploitées. Le problème est en réalité double. D'abord, un manque d'investissement qui a fait vieillir les infrastructures et la production. Elle-même, cette production, elle est passée de 1,4 million de barils jour à 1 million. Une quinzaine d'années. Il n'y a que peu d'investissements étrangers parce que le cadre juridique est très contraignant dans ce pays socialiste où l'État et l'armée contrôlent tout. L'Algérie était par exemple le dernier pays au monde à raffiner de l'essence avec du plomb, encore cet été. Et surtout, les dirigeants ont été incapables de profiter de la manne pétrolière pour développer d'autres secteurs prometteurs, comme le tourisme. Pétrole et gaz comptent aujourd'hui pour 95% de l'apport en devises et pour l'essentiel des ressources de l'État.
Dites-moi, ôtez-nous un doute, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent ?
Pendant les années fastes, on a fait des ponts, des routes, des écoles et distribué des aides sociales. Mais depuis la chute du prix du baril, à partir de 2014, ce sont les vaches maigres. Alors que les cours sont aujourd'hui aux alentours de 80 dollars le baril, on estime que pour équilibrer le budget du pays, il faudrait qu'il atteigne 170 dollars, le double. Les réserves de devises indispensables pour acheter des produits à l'étranger ont fondu. Les compétences nationales se sont amoindries également avec l'émigration de nombreux jeunes qualifiés, découragés par un système bureaucratique inefficace et auquel ils reprochent la corruption. C'est le déclin, avec un pouvoir paralysé, alors que résonnent encore les manifestations populaires du Irak. Récentes, elles ont été interrompues par l'épidémie. Déclin qui, comme pour nombre de pays pétroliers, devrait s'accentuer dans les prochaines années, à mesure que l'économie mondiale va rompre avec l'utilisation des énergies fossiles.
Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
L'animateur de télé Cyril Hanouna, il se vit comme un médiateur de la République et à 6 mois de la présidentielle, il a bien l'intention de s'impliquer dans la campagne.
A tout de suite avec Cyril Hanouna sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Cyril Hanouna qui publie « Ce que m'ont dit les Français » chez Fayard avec Christophe Barbier. Le livre sort demain.
Bonjour Cyril Hanouna.
Bonjour Alba Ventura, bonjour.
Tout d'abord, avez-vous envoyé un bouquet de fleurs à Sophie Tapie?
Alors ça part ce matin là, hein, ça y est. Non vraiment, c'était un bel échange hier avec Jean-Louis Borloo pour remettre dans le contexte. C'est vrai qu'on avait eu un petit accrochage avec Sophie que je connais extrêmement bien, toute la famille Tapie, voilà je le dis, c'est vraiment... Ils font partie de ma famille, Stéphane, avec qui j'ai démarré. Et c'est vrai que je l'avais tous les jours au téléphone. Il y a eu ce petit accrochage un peu à l'antenne, mais c'est rien comme j'ai dit, comme
un
on s'est dit.
Un petit accrochage où vous lui dites quand même de rentrer chez elle?
Non, mais parce qu'en fait, je vais vous dire, je la connais tellement bien que je me suis comporté à l'antenne comme si c'était ma sœur, quelqu'un de ma famille. Donc c'est vrai qu'on a l'impétude, comme m'a dit Stéphane après, il m'a dit, tu sais,
Stéphane Tapie.
Ouais, des frères et des sœurs, ça s'engueule, mais ça s'aime encore plus fort derrière. Et c'est vrai que ça m'a... on n'était pas bien tous les deux avant l'émission, on était dans ma loge, elle et moi, et c'est vrai qu'on était un petit peu fatigués tous les deux, on était un petit peu stressés par tout ce qui se passait autour de son papa déjà à cette période-là, et c'est vrai que voilà, je regrette vraiment ce passage parce que je l'aime tellement, Sophie, elle le sait. Et toute la famille le savent. Voilà.
C'était effectivement quelques jours avant la mort de son père. Mais le clash, le buzz, Cyril Hanouna, c'est ce que vous recherchez tout le temps?
Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est le buzz qui vient à moi. On fait une émission en direct.
Vous ne créez pas le buzz?
Non, franchement, je ne crée pas le buzz. En fait, je suis le plus naturel possible, moi, dans mes émissions. Je demande aux gens qui viennent et aux gens qui sont autour de la table d'être le plus naturel possible, de ne pas jouer un jeu, de venir avec leurs convictions, leurs idées, de dire ce qu'ils pensent. Je leur dis souvent, avant de rentrer dans l'émission, le seul maître mot, faites-vous plaisir et dites ce que vous pensez, ne jouez pas de rôle. Et moi, je ne joue pas de rôle dans l'émission. Donc il y a mes humeurs. Voilà, avec Sophie Tapie par exemple, je me suis trouvé nul.
Êtes indexé, Cyril Hanouna, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on appelle les top tweets, les tweets tendances. Vous dites, j'ai 6 millions de followers sur Twitter, vous avez une appli en main pour suivre les audiences. Et en même temps, vous dites que c'est le baromètre de l'intolérance. Vous écrivez que face aux réseaux sociaux, tu es obligé d'avoir une opinion, de choisir ton camp pour ou contre. Il n'y a plus de neutralité d'entre deux. Il n'y a plus de modération, de nuance. Tout est crispation, radicalisation. Vous encouragez ça?
Non, j'encourage pas ça. C'est un outil qui me sert énormément, moi, pour créer mes émissions, pour faire mon émission. Comment je fais le matin pour faire mes émissions? Je vais vous dire, je regarde ce qui est en top tendance, je regarde les sujets les plus commentés sur Facebook. Moi, là, on va pouvoir le refaire. Hier, c'était plus compliqué. Surtout hier soir. Mais voilà. Et je regarde un petit peu comment... qu'est-ce qui ressort, et je fais l'émission par rapport aux sujets qui sont les plus commentés. Moi, j'essaie de coller le plus à l'actu.
Mais vous savez que les réseaux sociaux charrient ce qu'il y a de pire.
Bah oui, mais nous, on essaie justement de mettre sur le plateau des gens voilà, qui ont pas fait le buzz, mais qui ont fait l'actualité. Après, ils sont toujours en phase de contradicteurs. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. Moi, je les utilise, ça me sert comme outil de travail. Et vraiment... je ne nie pas vraiment toutes les choses qui peuvent être dites sur les réseaux sociaux, mais ça me sert vraiment pour avoir une opinion, pour faire des petits sondages, pour voir un petit peu la tendance du moment. Vous savez, même les hommes politiques, les réseaux sociaux, ils s'en servent comme ça, pour voir, pour sentir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les tendances.
Vous dites qu'il faut donner la parole à tout le monde, ne pas l'étouffer cette parole, parce que ce serait pire. Vous écrivez notamment « N'empêchons pas les complotistes de parler, empêchons-les de convaincre ».
Exactement.
Sauf que Cyril Hanouna, lorsque vous invitez cet ancien journaliste complotiste Richard Boutry, vous vous félicitez que des gens vous abordent dans la rue en disant « Merci Cyril de lui avoir donné la parole ». Mais vous leur faites une pub incroyable, vous leur offrez une tribune incroyable à ces gens-là.
Alors, ils n'ont pas besoin de moi pour avoir une tribune. Aujourd'hui avec les réseaux
mais elle
sociaux
prospère.
Non, ils ont une tribune bien plus importante et au contraire, quand ils sont sur mon plateau ils sont mis à mal par des gens qui sont là pour les contredire, pour leur apporter des idées contradictoires qui sont complètement différentes de ce qu'ils apportent sur le plateau et surtout aujourd'hui moi je suis pas pour cornériser tous les gens qui ont pas la même idée que la plupart des gens. Voilà. Je vais vous dire, moi je pense que voilà, on a fait plein d'erreurs là-dessus. Au départ, le Front National, on le mettait sous le tapis, on essayait de jamais en parler, et c'est là qu'il est monté. Je pense que plus, au contraire, on met les choses sur le tapis, puis à un moment, on se rend compte qu'elles sont encore plus importantes et elles font encore plus de mal. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pour le dialogue. Je suis pour voilà, il y a d'autres exemples. On a parlé de Génération Identitaire dans l'émission, qui est un groupuscule que peu de gens connaissaient, mais mes téléspectateurs, ils l'ont découvert. Mmh. Et très peu de temps après, on a vu que ce groupuscule avait été dissous par le ministère de l'Intérieur. Donc, on fait des choses utiles dans l'émission, je pense.
Mais vous vivez comment ? Comme un médiateur de la République ? Vous employez souvent le mot médiateur dans votre...
Oui.
Médiateur,
pourquoi ?
Parce que prétentieux ?
Non, c'est pas prétentieux du tout. C'est au contraire.
Vous sentez investi d'une mission ?
Non, c'est pas ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui viennent me voir, moi, devant mes plateaux, parce que je suis une émission en direct. Donc les gens se disent peut-être qu'on va pouvoir passer directement à l'antenne. Donc les gens viennent me voir. Il y a eu des chauffeurs VTC, il y a eu des infirmiers, il y a eu des gilets jaunes qui sont venus vraiment devant mon plateau tous les jours. Je leur ai donné la parole et à un moment, je me suis dit tous ces gens en détresse, moi, est-ce que je peux pas faire le lien entre eux et les puissants, ceux qui décident, qui veulent bien venir dans mon émission. C'est pour ça que je parle aussi d'audience dans mon livre. Mmh. Je dis, si j'avais pas l'audience que j'ai, les puissants ne viendraient pas. Donc là, au contraire, je dois être le témoin entre eux, ces gens qui sont en détresse et ces puissants qui peuvent peut-être faire quelque chose et faire bouger les choses.
Mais en tout cas, dans votre livre, vous dites clairement que vous vous sentez investi d'une mission politique et vous traitez de plus en plus de sujets politiques ou de société. Vous invitez des personnalités politiques. Quelle est votre recette contre l'abstention ?
Ma recette contre l'abstention, déjà, c'est de montrer un petit peu toutes les personnes
parce
qui me sont proposées.
Parce que tous les gens qui sont sur
casting.
Votre plateau, ils se sont détournés de la politique.
Tous les gens qui me regardent ?
Qui vous regardent ou qui sont sur votre plateau ?
Non, il y a une étude qui est parue qui dit que les gens qui me regardent sont surtout des gens qui votent à l'extrême, ou à l'extrême gauche, ou à l'extrême droite. Il y a très peu de gens qui votent pour la droite républicaine, très peu de gens qui votent pour le Parti Socialiste. Aujourd'hui, je pense que c'est des gens aussi qu'on a laissés, ce sont pour moi les oubliés de la société, qui se disent, voilà, on va voter, c'est des votes contestataires. Aujourd'hui, nous, on va montrer tout le casting qui leur est proposé pour cette élection en avril prochain en 2022. Donc on va essayer de recevoir tous les candidats, de les montrer autrement. Je dis souvent, il faut les émissions traditionnelles, comme les émissions qu'il y a sur TF1, sur France 2, sur les chaînes info, sur les radios, comme chez vous. Et il faut aussi peut-être qu'ils viennent chez moi, parce que les hommes politiques, on les voit autrement. Manuel Valls, il est venu chez moi il y a 10 jours, il n'était pas le même que ce qu'il a fait dans d'autres émissions. Jean-Michel Blanquer aussi. Ils veulent montrer autre chose dans mes émissions. Et je pense que pour la présidentielle, on vote pour un homme. Donc il va falloir aussi qu'ils voient tous les gens qui se présentent et toutes les propositions.
Vous chuchotez à l'oreille d'Emmanuel Macron ?
Non, pas du tout. Non, je chuchote pas à l'oreille d'Emmanuel Macron. C'est vrai
on
que je parle.
On dit ça de vous ?
Non, je parle.
Vous envoyez des textos tout le temps ?
Non, pas, non, non, non. Non. Bah non, on ne s'envoie pas des textos tout le temps. Mais c'est vrai que je parle aussi bien avec Jean-Luc Mélenchon. Je parle avec Xavier Bertrand, je parle avec Emmanuel Macron, oui. Je peux parler avec différents ministres aussi pour... voilà. Emmanuel Macron, il ne m'a jamais rien demandé. Il m'a demandé une chose un jour, c'était de relayer les gestes barrières parce qu'il avait peut-être espoir de ne pas reconfiner. Je l'ai fait sur mes réseaux et à l'antenne. C'est la seule chose qu'il m'a demandé. Sinon, vraiment...
Alors, Cyril Hanouna, puisque vous parlez du Covid...
Oui.
Moi aussi, j'ai peur. C'est ce que vous écrivez sur le vaccin. Je m'interroge. Je ne me suis pas fait vacciner avant l'été. Pourquoi m'injecter quelque chose dans le corps et prendre un risque alors que tout va bien pour moi ? Pour faire repartir l'économie française ? Mais ce n'est pas un vacciné de plus ou de moins qui va assurer ou planter la relance. Les Français ne se feront pas vacciner pour l'intérêt supérieur de la nation parce qu'ils pensent que l'enjeu de la vaccination et du pass sanitaire, c'est avant tout l'intérêt supérieur électoral d'Emmanuel Macron.
Alors,
vous pensez vraiment ça ? D'abord, est-ce que vous êtes vacciné là ?
Toujours pas.
Toujours pas.
Je vous dis non, je fais des tests tous les 48 heures.
Mais c'est pas une question politique la vaccination ?
Non, c'est pas du tout une question politique. Moi, je suis pour la vaccination, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit je suis pour la vaccination, mais j'écoute quand même les anti-vax, mais je suis pour la vaccination.
Mais vous, moi, vous c'est juste pas
une... si, c'est juste, moi, c'est juste une question. C'est vrai que je suis, voilà, j'ai très peur de tout ça. Voilà, mon père en plus est médecin, mais voilà, moi, je sais que je vais me faire vacciner.
Quand?
Là, je sais pas encore quand, mais je sais que je vais me faire vacciner. Je sais que je suis pas contre la vaccination, donc je sais que ça va arriver. Je sais que je vais me faire vacciner. Après, le truc, c'est que je pense qu'il faut écouter aussi les gens qui ont peur. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Là, on parle d'une vaccination pour les plus de 12 ans. Il y a plein de gens qui ont peur de faire vacciner leur enfant. Je peux les comprendre. Il faut arrêter aussi de les corneriser. Il faut arrêter de dire, ces gens-là sont des uluberlus. Ces gens-là sont des complotistes. Il y a des gens qui sont anti-vax, ou plutôt, et qui sont même pas anti-vax, peut-être anti-pass sanitaire, et qui ne sont pas des complotistes, qui sont juste des gens qui se posent des questions et qui ont peur pour la santé de leur enfant ou de leurs proches.
Merci. Cyril Hanouna, vous allez bientôt donc vous faire vacciner.
Oui.
Et vous publiez ce que m'ont dit les Français.
Si vous voulez me faire la piqûre, vous, ça sera avec plaisir, Alba.
Je vous accompagne.
Je vais demander à mon père quand même.
Ce que m'ont dit les Français, avec Christophe Barbier.
Merci, Alba.
Chez Fayard.
Vous restez avec nous, Cyril, puisque dans une vingtaine de minutes, vous répondrez aux questions des auditeurs qui nous appellent au 3210 et au 64-900, code matin, pour les questions SMS. Et puis, vous restez avec nous parce que vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un petit instant.
Ah, avec plaisir.
RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Mais oui, 7h56, bonjour Philippe.
Bonjour.
Cyril Hanouna est resté pour votre chronique.
Et ça fait plaisir, c'est marrant le hasard, oui. On est garés côte à côte. J'ai garé mon scooter pile à côté de votre hélico. Cyril a mis son hélico sur la place handicapée. Ça, c'est Anne Hidalgo ne pense pas aux chroniqueurs qui ont un petit peu réussi. Depuis le début de la saison, j'étais en face de Jean Castex, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, bon, une astrobiologiste. Et là, ce matin, Cyril Hanouna. Je me suis dit, merde, je me suis gouré d'immeubles. Ou Cyril a été nommé ministre dans la nuit. Tout est possible avec lui, hein, de conseiller du président à ministre. Il n'y a pas 20 bornes. Hein.
Vous êtes bien sûr sur RTL, Philippe, avec Cyril Hanouna, qui a, il est vrai, un parcours et une réussite exceptionnelle.
On peut le dire, je le regardais jadis sur Comédie, il me faisait déjà marrer quand il se foutait à poil, parce que Cyril a la nudité rigolote.
Oui,
et vous êtes passé d'animateur qui se fout à poil à animateur de débat politique. J'espère que Nathalie Saint-Cricq et David Pujadas ne vont pas faire l'inverse et finir leur carrière en faisant des apniques en string dans la rue. Et Cyril, c'est un grand producteur, super animateur télé, le pote de Macron, on l'a dit, Booba, Benzema, Teddy Riner, vous êtes l'ami des stars vivantes. Vous êtes le Michel Drucker tunisien, on peut le dire, avec le petit talent supplémentaire, c'est de réconcilier les gens. Cyril pourrait rabiboucher Brigitte Bardot avec des empailleurs de bébés pandas. Dire, mais si, vous avez des points communs, parlez-vous, échangez.
C'est pas faux. Alors, on va parler de l'actu. Hein, oui, à l'occasion de la Journée mondiale des animaux, Emmanuel Macron visitait hier un refuge de la SPA.
Ah, avant d'avoir 30 millions d'électeurs, le président essaie d'avoir 30 millions d'amis. Et Cyril, vous êtes aussi un amoureux des animaux, on le sait ici à RTL, puisque vous avez la garde partagée de Jean Messia avec Pascal Pro. Pascal Pro lui fait faire sa balade du matin, pendant laquelle Jean urine invariablement sur les pompes de Laurent Geoffrin. Ah, il n'aime pas. Il n'aime pas quand il entend ce nom, Laurent Geoffrin. Couchez ! Il grogne, mais il ne dort pas, Jean. Bref, Emmanuel Macron pose aux côtés... Ta gueule, Jean ! Emmanuel Macron pose aux côtés des petits chats mignons, oui. Des petits labradors, pour séduire les électeurs. Et en même temps, le candidat qui dirait « Moi, j'adore foutre des beignes à mon bichon maltais avant d'aller dormir », ça risquerait de diviser.
Bon, alors, hier, Marseille et la région du Var ont connu de très fortes intempéries.
Petit moment de gloire de notre Louis Bonin. Hein. Tous les deux mois, Louis ne fait son intéressant avec une tempête. Remarquez, une inondation à Marseille, c'est pas si mal, ça va alors ramasser un peu les poubelles.
Oui, c'est ça.
Et les inondations, c'est aussi l'occasion de voir qui est le journaliste le moins respecté sur une chaîne info. Qui est le con qu'on va envoyer se les geler pour faire un duplex avec un caouet Décathlon et des bottes de pêche. Vous avez remarqué que le gars, il y a un abri, il se met dehors, sous la flotte, pour montrer « Oui, Bruce, tout ça, je suis zappé !» Bon, Louis, il a passé l'âge de ses conneries, il fait plus que du indoor. Il est en couvert, toujours.
Bon, écoutez, un mot de François Mitterrand, le président aurait eu, à la fin de sa vie, une sorte de relation secrète avec une étudiante. Elle était très jeune, d'ailleurs, au début de leur relation.
Disons qu'elle avait plus l'âge de jouer avec Sophie la girafe qu'avec le vieux zizi d'un président. Ça fait le même bruit. En tout cas, respect pour tonton Mitterrand. Sortir avec une petite jeune, quelle santé il avait pour un mourant. Alors, le livre consacré à cette relation, la fille affirme qu'il y a eu bisous slip. Hein. Alors, comment ont-ils pu s'aimer concrètement alors que le pauvre avait la prostate en papier crépon? Peut-être deux baguettes chinoises et du scotch autour. On ne sait pas. Le mystère reste entier.
C'est horrible. Alors, selon un nouveau sondage, Éric Zemmour est crédité de 15% de vote, soit 1% en fait derrière Marine Le Pen.
Il manque tellement qu'il va bientôt croiser Thomas Pesquet. Et encore, il n'est pas candidat, hein, notre Rico. Hein. Alors, vous allez voir qu'on va se retrouver avec un président qui n'est même pas, qui s'est même pas présenté. Jean-Marie Le Pen le soutient, en fait. C'est juste pour emmerder sa fille. Voilà.
Oui, j'ai adopté un petit Algérien raciste. Tu as un demi-frère maintenant, Marine. Oh, tiens, bonjour, monsieur Hanouka.
Hanouna.
Oui, c'est un point de détail, on s'en fout que lui.
En tout cas, Zemmour quitte RTL, il fait président. Cyril se barre, il devient le mec de Télé Français. Qu'est-ce que je fous encore là à VGT, moi?
Bah, peut-être que vous savez rien faire d'autre, non?
C'est peut-être pas faux, c'est pas faux. Je vais rester là.
Bravo, Philippe. Bravo, Philippe. Excellent. Merci. Vous restez avec nous, Cyril, puisque vous répondez aux auditeurs d'RTL dans une vingtaine de minutes qui vont dialoguer eux aussi avec vous. Dans un instant, le journal de 8 heures. Oui. RTL, il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et tout d'abord cette déflagration, cette onde de choc à laquelle se prépare l'Église catholique alors que sera dévoilé dans quelques heures le rapport de la commission Sauvé.
Du nom de son président Jean-Marc Sauvé qui depuis 2 ans et demi enquête sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique, ce qu'il a découvert dépasse sans doute les projections les plus sombres. Nous allons ensemble y revenir. Une procession organisée en hommage à Bernard Tapie, c'est une information RTL. Les Marseillais vont pouvoir suivre le cercueil sur l'avenue du Prado. À 6 mois de la présidentielle, enquête sur la guerre des parrainages indispensables pour briguer l'Elysée et on ne se fait pas de cadeaux entre candidats. À suivre également ces vieux portables qui valent de l'or, une équipe de chercheurs français s'est mis en tête de récupérer les métaux précieux contenus dans les cartes électroniques et puis un distributeur de choucroute en gare de Strasbourg, non. Plus sympa qu'un sandwich, peut-être moins vrai. Pratique à manger dans le train.
Votre surf de l'info, Cyprien Sini.
De l'importance du chien pour l'image présidentielle.
Dès la fin du journal, s'il vous plaît.
RTL Matin.
Ce sont des chiffres qui donnent le vertige et qui révèlent l'ampleur des abus sexuels commis au sein de l'Église catholique depuis 1950. La commission chargée de faire toute la lumière sur ce fléau rendra son rapport ce matin. On estimait il y a quelques mois à 10 000 le nombre d'enfants ou d'adolescents victimes d'abus au sein des églises, dans des pensionnats, parfois lors de camps scouts. Ils pourraient être en réalité 10 fois plus nombreux. On sait qu'environ 3 000 prêtres et religieux ont été identifiés comme prédateurs sexuels, soit 3% de tous ceux ayant officié depuis les années 50. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Des chiffres effrayants, on le disait, il aura fallu 2 ans et demi de travail à cette commission et à son président Jean-Marc Sauvé pour recueillir ces milliers de témoignages.
Oui, l'écoute des victimes était la priorité de la commission de la CIAZ. 6500 réponses reçues à la suite de l'appel à témoignages. 250 victimes longuement auditionnées, dont Emmanuel, 56 ans, marié, père de famille, racontait ce qu'il a vécu en 1976 au collège quand il avait 11 ans était devenue une nécessité.
La nécessité de rendre publique cette parole et de la déposer en un lieu, en quelque sorte, hein, comme un mémorial pour que cette parole soit enfin crue.
L'école aurait dû être un refuge pour Emmanuel, loin du foyer familial où il subissait un inceste maternel. Mais en fait, fragilisé, il était une proie facile.
Oui, le prêtre m'a repéré. J'étais seul la plupart du temps et j'ai très certainement été pris dans une logique de prédation. C'était l'aumônier scolaire, des baisers, des caresses inappropriées sur les parties génitales à l'occasion de retraite et également dans le cadre des cours de catéchèse.
Les récits des victimes ont permis à la commission d'établir des profils de prédateurs, de comprendre les mécanismes qui pouvaient s'opérer et de mesurer les traumatismes.
Et quels sont justement ces traumatismes, Marie ?
L'amnésie, très souvent observée, Emmanuel a mis 20 ans à réaliser ce qui lui était arrivé.
Pendant des années, on ressent des choses que l'on n'arrive pas à verbaliser, effectivement, ou des conduites automatiques qui nous échappent un petit peu. Moi, j'ai des relations avec mes enfants qui sont très compliquées. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de mal à toucher mes enfants.
Il ne se qualifie pas de victime, hein, mais de survivant. L'audition devant la commission Sauvé a été éprouvante.
Je m'accrochais à mon support écrit que j'avais préparé, dont je me suis détaché progressivement au fil de l'entretien, hein, qui a duré près de 2h30 en fait. Et puis après avoir témoigné à la CIA, je me suis trouvé très mal, puisque tout le passé s'est réinvité. Donc j'ai témoigné en février 2020 et ça s'est terminé par un burn-out dont je ne suis toujours pas sorti.
On vient de lui diagnostiquer des troubles de stress post-traumatique. Toutes ces vies saccagées vont jalonner les pages du rapport Sauvé.
Le rapport de la commission Sauvé sur ces abus sexuels au sein de l'Église qui sera donc dévoilé dans la matinée. C'était le choix ce matin de la brigade RTL. Merci Marie Garrier.
Il est 8h05. Marseille se prépare donc à célébrer la mémoire de Bernard Tapie qui sera inhumé, je vous le rappelle, après-demain au cimetière de Mazargues.
Depuis hier, deux livres d'or ont été installés dans l'un des salons du stade Vélodrome et les supporters, les Marseillais, peuvent lui rendre hommage. Mais ce n'est pas tout. La ville prépare pour jeudi une cérémonie sans doute à la hauteur de l'affection mutuelle que se portaient Marseille et Bernard Tapie. Bonjour Christian Olivier.
Bonjour.
C'est une information RTL, l'ancien patron de l'OM aura droit à une procession.
Et c'est bien sûr en étroite liaison avec la famille que depuis hier, la mairie de Marseille et l'OM continuent de travailler à ce puissant hommage qui lui sera rendu en effet jeudi après-midi, horaire pas encore officiellement fixé, mais selon nos informations, plutôt en fin de journée. Point de départ de cette procession, derrière le véhicule funéraire, les plages du Prado, à proximité de la statue de David, bien connue des Marseillais, direction le théâtre des exploits du club de l'ancien président champion d'Europe. Puis le cercueil sera présenté sur le parvis du stade Vélodrome où le public pourra rendre un dernier hommage à Bernard Tapie. Il avait été question d'organiser ce recueillement à l'intérieur du stade, solution probablement abandonnée pour raison de sécurité. On ne sait pas encore si la famille de Bernard Tapie sera présente, mais les élus locaux, départementaux, régionaux, ses amis, des anciens footballeurs, les dirigeants de l'Olympique de Marseille, plusieurs joueurs de l'effectif actuel sont annoncés, aux côtés bien sûr des fidèles supporters de l'OM.
Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Merci Christian. Espérons en tout cas que d'ici jeudi, la ville puisse être nettoyée car c'est un triste spectacle auquel assistent les Marseillais depuis hier. Des déchets qui jonchent les rues, des poubelles éventrées rejetées à la mer, conséquence des inondations et d'une semaine de grève des éboueurs. L'accumulation des déchets bouche les caniveaux et les sols n'absorbent plus rien. Une catastrophe écologique dénoncent plusieurs associations.
Elle est devenue l'un des symboles des violences faites aux femmes. On reparle de Chaïnez, morte le 4 mai dernier à Mérignac, près de Bordeaux.
Ouais, souvenez-vous, brûlée vive par son mari qui l'avait d'abord blessée à coups de fusil. L'enquête a montré qu'elle venait de porter plainte et que son compagnon était signalé et même recherché. Les parents de Chaïnez sont arrivés en France cet été en colère. Évidemment, ils souhaitent maintenant récupérer la garde des trois enfants de leur fille, aujourd'hui placés en famille d'accueil. Philippe de Maria, vous les avez rencontrés pour RTL.
Oui, Kamel et Johan racontent leur fille Chaïnez, souriante, sportive et puis l'horreur du crime. Les multiples fautes des autorités dans ce terrible dossier accentuent leur douleur de parents.
Je lui disais, il faut pas avoir tort, tu vis en France, et la justice française ne te laisse pas entre les mains de ce monstre. Elle criait sa détresse à tout le monde, mais elle n'était pas protégée.
La peur de rien. C'est ta femme, tu la brûles, vivante.
Pour moi, c'est un marche. C'est un marche.
Ils sont arrivés en France en juillet en décrochant difficilement un visa. Ils veulent tout simplement récupérer la garde de leurs trois petits-enfants placés en famille d'accueil. Pour le moment, ils ne les voient que 2 heures par semaine.
Ouais, c'est très long, c'est très long. Même pour les enfants, quand on les en visite, ils veulent partir avec nous. Quand ils nous voient, ils sont très contents. Mais quand on repart, après la visite, ils commencent à pleurer.
Ils veulent élever les trois enfants de Chaïnez ici, en France. Leur avocat, Maître Plouton.
Les démarches qu'ils effectuent aujourd'hui, que ce soit auprès des administrations, auprès de la justice, au niveau du juge des enfants, sont longues. C'est fastidieux et c'est vrai qu'ils ont du mal à l'entendre et à le comprendre. Là encore, ils sont finalement confrontés à une forme d'inertie administrative ou judiciaire.
Selon leur avocat, les enfants de Chaïnez n'ont toujours pas reçu de soutien psychologique, malgré des demandes réitérées.
Philippe de Maria.
La politique à présent, et c'est une matinale spéciale que vous propose RTL depuis 4h30, puisque nous sommes cette semaine à 6 mois du premier tour de la présidentielle.
Et vous l'aurez sans doute remarqué, les débats se tendent entre candidats, parfois au sein du même camp d'ailleurs. Comme tous les 5 ans, ils sont nombreux à se sentir pousser des ailes et s'imaginer dans la bataille présidentielle. Mais il y a une règle immuable à laquelle personne ne pourra déroger, les fameux 500 parrainages d'élus. Et la chasse aux signatures a bel et bien démarré, Vincent Derosier.
Oui, et ce qui est certain, c'est que tous ne luttent pas à armes égales. Pas de doute, par exemple, que le candidat LR aura ses signatures. Mais en attendant sa désignation, eh bien, ça fait le jeu d'Éric Zemmour qui a lancé ses filets vers les élus de droite. Ses proches revendiquent d'ailleurs le soutien d'une centaine de maires, ce qui est invérifiable. À gauche, la socialiste Anne Hidalgo ou Yannick Jadot n'auront pas de soucis à se faire, puisqu'ils ont des centaines d'élus sur le terrain. Pour Marine Le Pen, la tâche s'annonce plus ardue, même si elle revendique déjà 360 parrainages. Pour les candidats bas dans les sondages, là, ce n'est vraiment pas gagné. Mais Arnaud Montebourg, sur RTL, garde le sourire.
Bah, écoutez, on a dépassé 150, c'est pas mal. Hein, j'ai commencé il y a 20 jours, c'est pas mal. Hein,
Jean-Luc Mélenchon aurait, lui, 260 signatures, mais la concurrence est rude cette année avec un candidat communiste face à lui. Enfin, à 6 mois de l'élection, beaucoup d'élus préfèrent attendre. surtout les maires sans étiquette qui ne veulent pas se mouiller.
Vincent Derosier du service politique de RTL.
Et je vous rappelle que Cyril Hanouna publie donc ce livre sur l'état d'esprit du pays à 6 mois de la présidentielle, ce que les Français m'ont dit. Il sera de nouveau avec vous en studio à partir de 8h20 pour dialoguer avec vous. Vous nous appelez au 3210 pour débattre avec Cyril ou vos questions au 64 900 code matin. Dans un instant, de l'or dans vos vieux téléphones portables. Tiens. Restez avec nous.
RTL Matin.
Il est 8h13, la suite du journal de Dominique Tenza. L'idée ce matin d'une équipe de chercheurs lorrains persuadés que nos téléphones regorgent de trésors.
Et de métaux précieux qui, une fois extraits, pourraient bien rapporter gros. Ils se sont donc mis en tête de réunir 10 000 téléphones portables usagés afin de mener leur étude. Pas très compliqué quand on connaît, Sophie Jousselin, le nombre de vieux appareils qui s'entassent dans nos placards.
Oui, on estime à 110 millions le nombre de téléphones qui dorment dans nos tiroirs. À eux seuls, ils sont une mine d'or. Une tonne de smartphones contiendrait 100 fois plus d'or qu'une tonne de minerais. Les médailles des Jeux de Tokyo ont d'ailleurs été fabriquées à partir d'appareils recyclés. En tout, nos téléphones sont constitués d'une cinquantaine de métaux, du cuivre, de l'aluminium, du nickel, du lithium dans les batteries, aussi du palladium, plus cher que l'or. Les entrailles de nos smartphones renferment également des métaux rares aux noms bizarres. L'europium, le terbium, le gallium, on les dit rares, non pas parce qu'il y en a peu. La preuve, il y a 400 fois plus d'yttrium que d'argent dans la croûte terrestre, mais parce que leur extraction est très compliquée, coûteuse, polluante et dangereuse, d'où l'intérêt de recycler nos vieux téléphones.
Sophie Jousselin, cette panne géante cette nuit aux conséquences planétaires.
Breaking news in our tech lead, a worldwide outage for Facebook, Instagram and WhatsApp.
Le réseau social Facebook et ses filiales WhatsApp et Instagram totalement hors service pendant plus de 6 heures, rendant impossible l'accès à ces plateformes pour des millions d'utilisateurs à travers le monde et notamment chez nous en France. Une panne totalement inédite qui serait due à un changement de configuration selon le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a vu entre-temps l'action du groupe chuter de 6%. Il aura perdu, écoutez bien, à titre personnel, 7 milliards de dollars en quelques heures.
Bon, ben nous on va partir en gare de Strasbourg pour terminer ce journal, où vient d'être installé un distributeur d'un genre un peu particulier.
Bah oui, alors que la plupart vous proposent, c'est les sandwichs club, triangle, pas très bon, voilà. Pas très nourrissant. Eh bien lui, il vous propose des spécialités alsaciennes. Yannick Collant, vous avez testé pour nous la fameuse choucroute.
Oui, choucroute, ou si vous préférez, foie gras ou encore Münster. C'est un petit condensé de la gastronomie alsacienne qu'on retrouve dans ce distributeur. Thierry vient d'acheter un Münster avant de longues heures de train. Sa destination ?
Marseille. Je suis en transit en fait, là. J'arrive de Nancy. Moi, j'adore le fromage, j'ai vécu 11 ans en Savoie.
Et vous n'avez pas peur le trajet avec le Münster dans les affaires, non ?
Non, plus il va avoir chaud, mieux il sera pour le manger.
Pas de panique si vous devez partager le train de Thierry. Tous les produits sont sous vide, il n'y aura pas d'odeur. En tout cas, ce distributeur de Münster et de choucroute est devenu une star sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok.
Oh, il est là ! Alors, il y a du saucisson, choucroute, foie gras et Münster fermier.
C'est Vincent Vigneron de la boutique de l'oncle Malker qui a eu l'idée d'installer ce distributeur de produits locaux dans le hall de la gare. Et le succès est au rendez-vous.
Alors, le top 3, Münster fermier. En numéro 2, la choucroute et les gendarmes également plaisent.
Les gendarmes, ce sont des saucisses fumées alsaciennes qui se croquent. Allez, je vous en prends deux et je vous attends à l'heure de l'apéro en gare de Strasbourg.
Mais c'est délicieux, ouais. Les gendarmes.
Ah bah dans le studio, en plus, ça sentira bon, j'imagine. Ce sera sympa.
Attention, c'est fini ?
C'est terminé. Je reviens à 9h.
Ah bah, je compte sur vous. C'était le journal de Dominique Tenza. Notre météo avec vous, Louis Badin.
Oui, une choucroute qui sera un peu arrosée aujourd'hui. Ah, mais oui. Comme la plupart des régions, hein, une perturbation qui est actuellement sur les régions de l'Ouest qui arrivera sur l'île de France. Ça va se faire dans la prochaine demi-heure, sur toutes les régions du centre, sur le Nord-Pas-de-Calais également. Et puis en cours d'après-midi, elle arrivera donc sur les régions de l'Est. Strasbourg, ça sera plutôt en fin de journée, tout comme les régions du Sud-Est, où on retrouvera quelques pluies, mais ça n'aura plus rien à voir avec les pluies de ces derniers jours. Hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après le passage, on retrouvera quelques éclaircies avec des averses. C'est assez classique. 15 à 18 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 18 à 20 degrés dans le sud, et encore 20 à 25 degrés près de la Côte d'Azur. Le vent sera également de la partie.
Merci beaucoup, Louis. Nous allons surfer avec Cyprien Signy dans un instant. Enfin, Cyprien Signy, puis le chien présidentiel, par
tout exemple. À fait. Voilà.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Alors Cyprien, ce matin, vous surfez avec l'importance du chien présidentiel.
Oh que oui. D'ailleurs, même s'il dit ne pas encore être en campagne, saurez-vous deviner où Emmanuel Macron a passé sa matinée hier ? Attention, un indice se cache derrière la voix du président.
On en a environ combien au total qui sont modernisés dans le plan de relance ? Donc voilà, il faut, avec l'ensemble des entreprises...
Il y a du chien derrière.
Au chenil.
Un refuge de la SPA avec micro et caméra.
montrer qu'on s'intéresse aux animaux, la base pour un président. D'ailleurs, dès sa prise de fonction, il était allé adopter un chien. Avec Brigitte et avec les journalistes aussi, du coup. Résultat ?
L'image du jour, c'est ce chien.
Le chien Nemo à la une de l'actu et l'histoire d'une belle rencontre grâce à la patronne de la SPA.
Dès qu'il a rencontré le couple présidentiel, il s'est tout de suite passé quelque chose entre lui et le président de la République. Ils se sont mis à jouer ensemble.
Ah, c'est beau. Le coup de foudre entre le chien et le président. En plus, ironie de l'histoire, Nemo, le chien des Macron, ben...
C'est un chien qui a environ 2 ans, qui a été abandonné à l'âge d'un an au refuge de Tulle.
Ah ben, il vient de Tulle, comme François Hollande, dites donc. D'ailleurs, François Hollande aussi, il avait son chien à l'Élysée. Philae, un peu gaffeur le Philae. Il avait renversé une étudiante en visite au palais, dites donc.
Un drame s'est produit. Philae est renversé.
Oh, un sacré Philae. De toute façon, le chien de l'Élysée finit toujours par prendre la lumière. Prenez le couple Sarkozy, qui reçoit des lectrices d'un magazine féminin. Eh bien, le chien, c'est lui qui attire l'attention. Bon, sauf que le chien s'appelle Clara, et là, bah, ça n'a pas loupé, écoutez bien.
Carla et...
Clara.
Carla, je suis content que ce soit vous qui l'appréciez.
Carla, c'est pas le chien, hein, c'est Clara le chien. Et puis chez les Sarko, il n'y avait pas que le chien Clara.
Il y en a un troisième, hein. Il y a Toumi.
Il est à la maison.
Toumi.
Oh, ils sont gentils. Hein.
Bonjour,
ils sont vraiment, c'est un bonheur.
Toumi, tout oui, mignon, tout mignon. Bah oui. Incroyable comment ces hommes de pouvoir, durs, robustes, fendent l'armure face aux caniches. D'ailleurs, chez les Chirac, bah, c'est le caniche qui avait gagné. Hein. Sumo, piqué après avoir mordu 3 fois le président. Heureusement qu'il y avait eu Michel, vous aimez les chiens, Drucker à la rescousse.
J'ai un cadeau pour vous.
Oh, il est tout à fait mignon, ce
bichon. Voilà, c'est un bichon frisé.
Oui.
Je sais que Sumo n'est plus là pour des raisons qu'on connaît. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir.
Oh, ça, c'est vraiment gentil.
Voilà.
Hein, Doudou.
Tout doux, le bichon. François Mitterrand, lui, il avait carrément un chenil. Hein.
Julie, viens là. C'est une chienne labrador. Extrêmement belle, douce, fidèle. Le prototype du bon chien. Et Titus, qui est là, est un bassin artésien. Il vit avec moi à Paris.
Mais preuve ultime.
Ça rigole pas. Hein,
ça rigole pas. Non. Mais preuve ultime de l'importance de l'image du chien pour un président, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Un emploi du temps surchargé, mais prêt à tout sacrifier pour apparaître dans un reportage de 30 millions d'amis. Écoutez cette archive.
L'Élysée. Ce jour-là, sur l'agenda du président de la République, une prise d'armes aux Invalides et un déjeuner auquel étaient conviés de très hautes personnalités politiques. Et pourtant, vers 16h, M. Valéry Giscard d'Estaing trouvait un moment dans un emploi du temps particulièrement chargé pour nous accorder une interview.
Et oui, prêt à tout pour se montrer avec ses chiens à la télé. Et 43 ans plus tard, finalement, bah rien n'a vraiment changé. Hein.
Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir dès 18h40 pour défaire le monde avec toute votre équipe.
De l'info sérieuse sans se prendre au sérieux.
Et Julien Cellier. Dans un instant, Cyril Hanouna répond à vos questions. Continuez à nous appeler au 3210 ou envoyez votre question par SMS au 64 900, code MATIN. Bonne journée à tous.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
Il est 8h25. Il est 8h25, Cyril Hanouna est resté avec nous à l'occasion de la sortie de son livre avec Christophe Barbier, Ce que m'ont dit les Français chez Fayard. Le livre sort demain et on va directement donner la parole à nos auditeurs, Cyril Hanouna. Tout d'abord Philippe qui nous appelle de Moselle. Nous vous écoutons Philippe, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Yves, bonjour Monsieur Hanouna.
Bonjour Philippe.
Ma question, je pense qu'elle est évidente. Hein. Vous êtes animateur, maintenant vous êtes médiateur, est-ce que vous passez à la politique après ?
Non Philippe, alors pas du tout justement, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux vraiment rester médiateur, j'essaie voilà, de mettre vraiment, je vous le dis comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre en contact des gens qui n'ont pas accès au gouvernement, qui n'ont pas accès aux décideurs, essayer de faire... faire bouger les choses modestement, parce que c'est vrai que c'est rare que j'arrive à faire bouger les choses avec l'émission, mais on arrive en tout cas à mettre en relation des personnes qui n'arrivent pas à parler, voilà, je vous dis, à certains ministres, à certains décideurs, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire, vraiment médiateur, et d'essayer de faire cohabiter tout le monde sur mon plateau, que toutes les opinions soient représentées, et qu'on arrive à sortir quelque chose à chaque fois voilà, de mes émissions ou de certains débats. Mais vraiment, pour l'instant, Philippe, non, et même pour l'instant, et même plus tard, jamais, ça n'arrivera jamais.
Bon, donc vous ne ferez pas de politique, la réponse est très claire. Quand on vous lit, Cyril Hanouna, on a l'impression que ce qui s'est passé là, la médiation, ça s'est quasiment imposé à vous. C'est-à-dire que vous ne l'aviez pas anticipé et que d'une certaine façon, vous avez fini par le faire vivre.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, voilà, c'est vu le nombre de gens qui venaient me voir devant le studio et qui me disaient qu'ils étaient en difficulté. En fait, les gilets jaunes aussi, à un moment, j'ai vu beaucoup de gilets jaunes, en détresse, des Français qui étaient au bout du rouleau. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Ou je les laisse repartir chez eux après leur témoignage, ou bien j'essaie peut-être de les mettre en relation, de faire bouger un peu les choses. Et voilà, je me suis dit, c'est peut-être le nouvel axe qu'il faut faire, qu'il faut creuser dans l'émission. Et j'ai dit à mes équipes, je pense que j'ai envie d'aller là-dedans maintenant.
Merci Philippe de nous avoir appelé.
Merci beaucoup.
On donne
Philippe.
La parole à Céline qui, elle, vous interroge. Elle nous appelle du département de la Vendée. Bonjour Céline, soyez la bienvenue.
Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Hanouna.
Bonjour Céline.
J'aimerais
merci.
Juste savoir, est-ce qu'il y a des invités que vous ne recevrez jamais sur votre plateau?
Alors, avant,
quelles sont vos limites d'une certaine façon?
Avant, c'était le cas. C'est vrai qu'avant, je le disais, hein, j'avais dit je recevrai jamais Marine Le Pen, je recevrai jamais Éric Zemmour. Aujourd'hui, j'ai bougé. Voilà, j'ai changé
Pourquoi
d'avis parce que je pense qu'avant, j'étais pas du tout armé pour les recevoir, que l'équipe que j'avais autour de moi n'était pas armée pour les recevoir. Aujourd'hui, j'ai une batterie de personnes qui peuvent être en contradiction avec eux, qui peuvent amener des contradictions et j'ai changé d'avis là-dessus. J'étais aussi, je vous le dis, quand Alba Ventura m'a dit tout à l'heure, Cyril, vous invitez parfois des gens, des complotistes, des gens qu'il faudrait peut-être pas inviter. J'étais un peu dans le même, j'étais un peu sur le même modèle que Calba. Je disais non, je veux pas inviter ces gens-là, je veux pas en parler, je veux pas qu'on leur donne de tribune. Et aujourd'hui, j'ai changé parce que je me dis qu'au contraire, je préfère les mettre en face de leurs contradictions plutôt que de les cornériser et de les laisser s'exprimer sur les réseaux sociaux sans contradicteur
Quelles
face caméra.
Quelles sont vos limites, Cyril Hanouna? C'est ça la question en fait.
Mes limites, c'est si je n'ai pas de contradicteur.
Qui ne
en
faut
face.
Pas venir s'exprimer dans votre émission parce que vous estimez que ça n'est pas
aujourd'hui,
acceptable.
Il y en a un qui a franchi. Je l'ai dit dans une interview à Libération. Il y en a un, voilà, que pour moi, qui est passé complètement de l'autre côté et qui a eu des propos inadmissibles, c'est Dieudonné. Voilà, Dieudonné, aujourd'hui, je sais que je pense que ça y est, c'est trop tard. Je peux plus l'inviter. Il a eu des propos sur l'antisémitisme. Voilà, antisémite. Il a eu des propos sur l'histoire incroyable. Voilà, qui me dérange fortement. Je ne peux plus. Voilà, je peux pas l'inviter. Sinon, aujourd'hui, j'ai personne en tête. Voilà, où je me dis non, je ne vais pas l'inviter.
Donc, vous n'avez pas de limite à part Dieudonné. Je résume en une phrase. On est
merci,
d'accord.
Merci. Vous avez bien meilleur que moi. Merci Céline.
C'est Céline. Merci de nous avoir appelé. Odile, elle nous appelle d'Orléans. Elle est gérante d'un supermarché. Bonjour Odile. C'est à vous de parler.
Bonjour Monsieur Calvi. Ouais. Bonjour Monsieur Hanouna.
Bonjour Odile.
Votre première invitée politique a été Marianne Chapin.
Oui.
Comment avez-vous réussi à la convaincre de venir dans l'émission?
Ah ben je vais vous raconter parce que c'est en fait il y a eu c'était au moment du grand débat national. Et Marlène Schiappa était en contact avec mes équipes. Elle était déjà venue une fois dans l'émission et on avait gardé de bons rapports. En fait, moi, elle m'avait convoqué à l'époque, rappelez-vous, à cause d'une histoire. Elle m'avait convoqué donc à son bureau, rappelez ou pas, avec des problèmes que j'avais eu des problèmes avec le CSA. Elle m'avait convoqué. On avait gardé de bons rapports et elle m'avait dit il y a le grand débat national. Mes équipes ont dit ça. Ils ont dit est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose peut-être avec Cyril. J'ai dit écoute. Je dis à mes équipes, je vais rencontrer Marlène. Je suis allé dans son bureau. On a au ministère. Elle m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et je lui ai dit, écoutez, vous n'allez pas être mon invité. Vous allez être ma co-animatrice. Et je lui ai dit, vous verrez qu'en disant ça, tout le monde va parler de ça. Parce que si vous êtes un invité, on va dire oui, elle est invitée. Tiens, là. Si on dit que vous êtes la co-animatrice du grand débat avec moi sur C8 en direct, là, ça va être repris partout. Et c'est vrai qu'après, toutes les chaînes info même ont repris l'information. Et c'est vrai que ça avait très bien marché. Et Marlène Schiappa, mine de rien, je lui dois quand même énormément à Marlène Schiappa parce que c'est elle qui a ouvert la voie à tous les autres politiques qui voulaient pas venir. Et elle a eu vraiment du courage de venir la première. Et aujourd'hui, je le dis d'ailleurs dans mon livre, je la remercie parce que c'est elle qui a lancé le truc.
Vous les aimez, les politiques?
Alors, c'est vrai que je m'intéresse énormément à la politique, donc j'aime les recevoir. C'est ce que je dis, voilà, je m'intéresse à la politique parce que je trouve que c'est des compétiteurs. Donc voilà, donc j'aime le côté compétition. Après, voilà, je les aime pas tous, mais j'ai pas en tout cas ce truc de me dire c'est tous des pourris. J'ai encore foi en la politique et j'ai encore envie d'y croire.
Alors
voilà.
Après Odile, que je remercie de son appel,
merci
Stéphane
Odile.
A lui aussi envie de vous interroger sur vos rapports avec les responsables politiques. Stéphane, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour Stéphane,
bonjour,
merci.
Monsieur. Bonjour Monsieur Hanouna. Bon, moi j'ai essayé d'être court et très franc. J'arrive pas à regarder votre émission plus de 5 minutes et en même temps, des fois, j'aimerais être assis sur le plateau et débattre. Donc c'est hyper compliqué.
Mais cette ambiguïté, on la comprend, oui.
Mais je vous comprends, voilà. Stéphane.
Voilà. J'ai pas envie de vous critiquer personnellement, mais j'arrive pas à regarder l'émission. Alors, ne pensez-vous pas que les hommes politiques vous utilisent? Et puis, si un jour vous faites un faux pas, parce que c'est en direct, c'est un équilibre très
bien
fragile.
Sûr.
Ben, moi, je les connais, les politiques, j'ai ma petite idée, avec beaucoup d'humilité. Je sais que ce sont des gens qui sont, pour garder le pouvoir, ils sont capables de franchir la ligne rouge.
Ah, mais
moi.
Je suis complètement
Est-ce
d'accord.
Est-ce que vous pensez pas qu'ils vous jouez un jeu dangereux et qu'ils peuvent vous briser si vous dérapez?
Alors, Stéphane vous demande si vous n'êtes pas utilisé.
Alors, Stéphane a raison.
Pardonnez-moi l'expression, il y a l'idiot utile.
Ah, bien sûr, voilà. Non, il a raison de dire ça, Stéphane. C'est vrai que, je vais vous dire, ils se servent de moi. parce que voilà, ils savent qu'ils ont ils vont être face à un auditoire qui vote peu ou pas, qui est encore un auditoire très volatile, qui voilà, il y a plein de gens moi qui me regardent qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Mais Stéphane, c'est un échange de bons procédés. Moi aussi je me sers d'eux aussi pour faire une nouvelle émission, pour donner un nouveau virage à mon émission. Donc je pense que voilà, moi aussi je me sers autant d'eux que se servent de moi. Après on en est conscient, je pense, les uns et les autres. Et moi voilà, je sais que j'essaie de prendre ce qui m'intéresse. Et voilà, de ne pas rentrer. Je ne suis pas copain avec des politiques. Vraiment, je vous le dis, je ne veux pas être copain avec eux. Je veux qu'ils viennent sur le plateau, qu'on fasse une belle émission, c'est tout. Mais je ne veux pas rentrer. Voilà, on se sert. Je pense que c'est un échange de bons procédés.
Avant de nous séparer, il nous reste une petite minute.
Merci Stéphane.
Oui, merci Stéphane. Je vous pose la question que Claude voulait vous demander. Il est artisan dans le département de l'Ain. Il nous dit, comment pouvoir réconcilier les Français quand on voit la tension régulièrement sur vos plateaux?
Alors justement, parce que c'est comme en famille. Dans les familles, il y a des engueulades. Mais après, quand ça redescend, justement, on garde que le meilleur. On garde les échanges qu'on a pu avoir et on essaie de trouver des compromis. Moi, c'est ça. Moi, je pars souvent de ce principe. Voilà, il faut débattre, il faut échanger des idées, il faut essayer de dire ce qu'on pense et d'essayer de faire un pas l'un vers l'autre. Après, c'est vrai que ça peut passer par une bonne engueulade et après, derrière, ça peut redescendre. C'est comme, moi, je suis un amateur de boxe. Voilà, je boxe et c'est vrai qu'un combat de boxe, c'est ça aussi. C'est deux combattants qui vont battre, qui vont montrer qui vont se battre ensemble et à la fin ils vont se tomber dans les bras. C'est ce que je veux, c'est ce que j'essaie de faire dans l'émission, mais surtout j'essaie qu'il y ait du dialogue et que les choses s'arrangent, voilà, et qu'on essaie de faire un pas vers l'autre à chaque fois.
Vous vous dites parfois ça peut m'échapper.
Bien sûr, surtout en direct, etc. Il faut être extrêmement vigilant. J'essaie de faire le mieux possible. J'ai un seul regret, voilà, je le dis et je l'ai dit à Alba tout à l'heure. C'est voilà cette petite passe d'armes avec Sophie Tapie, parce que je l'aime passionnément, que je l'aime vraiment fortement, que c'est quelqu'un de ma famille, et toute la famille aussi. Mais voilà, c'est oublié et c'est une engueulade en famille qui aurait pu se passer hors antenne, mais qui s'est passée en direct. Voilà.
Merci Cyril, merci d'être venu dialoguer avec les merci auditeurs beaucoup d'RTL ce matin. Ce livre, Ce que m'ont dit les Français, avec Christophe Barbier, paraît donc demain aux éditions Fayard. Bonne journée à vous. Notre météo à 7 jours avec vous, Louis Baudin, maintenant. Il est 8h34.
Et j'ai plutôt de bonnes nouvelles pour la fin de semaine. Alors, pas encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on n'oublie pas le parapluie parce que de toute façon, il va servir. S'il ne sert pas en ce moment, d'ailleurs, il pleut là quasiment des Pyrénées à la frontière belge. Cet après-midi, c'est toute la moitié est qui retrouvera de la pluie, y compris dans le sud. Hein. Il y en aura de nouveau du côté de la Côte d'Azur, mais ça sera beaucoup moins intense que durant la journée d'hier. Un peu moins sur la Corse qui restera un petit peu à l'écart. Après son passage, retour d'éclaircies dans l'ouest, mais avec encore des averses. Le vent sera de la partie jusqu'à 80 km/h, puis à partir de demain, cette perturbation, on va l'oublier. Alors, elle laissera un peu d'humidité, quelques brouillards, peut-être quelques averses l'après-midi, notamment près des frontières de l'Est, mais déjà, le soleil reviendra dans la plupart des régions. Les températures seront un petit peu fraîches le matin, de saison l'après-midi, et à partir de jeudi, ça se confirme. C'est un temps sec, ensoleillé, qui revient, agréable, quelques brouillards le matin. C'est l'été indien, ça y ressemble, hein. On est au mois d'octobre, donc c'est quelques journées très belles. Alors bon, les jours sont un peu moins longs, mais c'est très agréable, puisqu'on attendra les 18-19 degrés l'après-midi, 20 à 25 quand même dans le sud. Et puis ça nous accompagne jusqu'à samedi, dimanche inclus, lundi. Vous voyez, un beau week-end en perspective.
C'est très agréable, vous me dites ça avec un grand sourire et des yeux qui pétillent.
Je suis content quand même, après ce qu'on a connu.
Vous savez quoi ? Je suis ravi. Bon, et je suis content quand vous l'êtes vous aussi. Merci beaucoup Louis Baudin. Dans les prochaines minutes, nous allons retrouver Cyril Lignac pour une recette de carré de veau délicieuse. Nous serons bien entendu avec Laurent Gérard et Mademoiselle Jade et toute leur équipe. Et puis dans un instant, on vous emmène dans une colocation bien particulière à Paris, où ce sont des jeunes qui viennent en aide à un jeune homme handicapé, ce qui leur permet, eux, d'avoir un toit au même moment. C'est RTL, vous êtes comme ça. RTL.
Revivre ensemble. RTL Matin, la face cachée de la Lune.
Il est 8h38, on vous retrouve Isabelle Choquet avec une histoire invraisemblable, l'histoire de la montre perdue d'Adolf Hitler.
Une montre qui vient de refaire surface 80 ans après, ici en France, à Paris, comme une relique vénéneuse. J'ai lu ça sur le site du Figaro. Jusqu'ici, ce n'était qu'une rumeur. Cette montre, on pouvait l'apercevoir sur une vidéo de quelques secondes prise au Nid d'Aigle en Bavière. Mm-hmm. Sur ces images, le Führer la glisse dans sa poche. On n'était même pas sûr qu'il l'ait portée, même pas sûr que ce soit la sienne en fait. Maintenant, c'est certain. certain, car cette montre-là, un homme la propose actuellement sous le manteau dans un palace parisien vers la place Vendôme, la rue de la Paix. Quelle ironie, hein, la montre d'Hitler, rue de la Paix. C'est un boîtier rectangulaire, sobre, plutôt moderne pour l'époque. Le style parle de lui-même, nous sommes au début des années 30. Le cadran est frappé du nom de Huber, fournisseur officiel de la cour de Bavière. Alors pas de doute, hein, celui qui a offert cette montre à Hitler voulait ce qui se fait de mieux, même si en fait Hitler ne portait pas de montre au quotidien. Au dos du boîtier, tout désigne le Führer. L'aigle émaillé, la croix gammée, les initiales AH et tout autour, trois dates inscrites en rouge sang, celle de sa naissance, celle de sa nomination comme chancelier du Reich et celle de sa victoire aux élections en 1933. Impossible de vérifier l'existence de cette commande très spéciale dans les archives de l'horloger. Elles ont été atomisées par un bombardement en 1945. Mais plusieurs témoignages écrits prouvent son âge et son authenticité. Cette Huber a donc été ramenée du nid d'aigle par un membre de la division Leclerc. Elle a dormi près de 80 ans dans un coffre-fort et elle vient d'être exhumée par les héritiers de ce monsieur. En théorie, elle devrait être restituée aux ayants droit d'Hitler, l'État de Bavière en l'occurrence. En pratique, mieux vaut la vendre. Un objet pareil, ça vaut forcément une fortune. Et en même temps, rien du tout, parce que c'est invendable. En France, pour des raisons morales, pour des raisons juridiques, la vente des objets nazis et des biens de guerre est interdite. Reste la transaction privée, de la main à la main, dans le silence feutré des grands hôtels, sous la surveillance implacable des deux gorilles qui protègent le vendeur. Ce n'est sans doute pas une première, hein. Les montres de Goebbels sont passées entre les mains d'experts pour évaluation, et puis elles ont disparu, sans laisser de traces. Il y a visiblement une fascination pour les montres de monstres. Le Figaro y consacre un long article, Le côté obscur du temps, où l'on apprend que la Patek Philippe en or blanc du colonel Kadhafi s'est envolée pour 167 000 euros il y a deux ans, et que Saddam Hussein, lui qui faisait fabriquer des montres de luxe à son effigie, bien ces montres s'échangent aujourd'hui sur eBay. On apprend aussi que vendredi, c'est ça l'actualité, la montre d'Al Capone va être vendue à Sacramento avec son Colt 45 préféré et son couteau de poche. La montre pourrait dépasser les 100 000 euros. Al Capone, c'est une chose, mais Hitler, qui pourra bien acheter la montre d'Hitler? À peine une vingtaine d'amateurs dans le monde, probablement, des gens qui ne s'embarrassent pas de questionnements éthiques. La transaction atteindra-t-elle 100 000 euros, 1 million en liquide, en diamant, en bitcoin? On ne le saura jamais. Le mieux, conclut le Figaro, ce serait qu'un généreux mécène parvienne à mettre la main dessus pour en faire don, par exemple, au mémorial de Yad Vashem.
Merci beaucoup Isabelle. On se retrouve demain matin.
Avec plaisir, à demain.
À demain.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça, bien sûr, à 6 mois du premier tour de la présidentielle. Nous vous donnons la parole tout au long de cette semaine pour savoir ce que vous attendez de cette campagne et de cette élection. Quelles sont vos préoccupations au quotidien? Que faut-il changer ou améliorer? Ce matin, Nerissa Imani nous emmène dans une colocation où des étudiants valides partagent un appartement avec un handicapé. Le principe est simple. 4 étudiants payent un loyer symbolique et en échange, ils doivent aider Jérémy, un jeune homme de 25 ans, atteint d'une maladie neurodégénérative qui doit être accompagné pour les gestes du quotidien. Bonjour. Bonjour Nerissa Imani.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Cette initiative a été lancée il y a 2 ans par les parents de Jérémy au sein de l'appartement familial pour recréer du lien social.
Oui, dans un immeuble au cœur du 19e arrondissement, on entend résonner les rires à travers la porte de ce grand appartement où logent 5 jeunes, dont Marie, 23 ans.
Là, on est dans le salon, c'est là où on se réunit tous les matins pour préparer Jérémy, enfin en tout cas le binôme de 2 qu'il prépare, et tous les soirs pour dîner ensemble.
Jérémy, c'est le jeune homme qui a grandi ici. Aujourd'hui, sa maladie dégénérative l'empêche de marcher, de parler distinctement. Alors chaque jour, ses colocataires s'organisent pour l'aider.
Salut Jérém, ça va? Ultime beau gosse de ma vie. On se dit des paroles comme ça.
Programme de la matinée, réveiller Jérémy, l'installer dans son fauteuil, lui faire sa toilette.
On lui brosse les dents, on lui coiffe les cheveux, on lui met de la crème hydratante.
Il y a un peu de parfum.
Quelle chance!
Songul et Léo vivent ici depuis 4 mois. Ces deux étudiants ont répondu à une annonce sur les réseaux sociaux. Aucun garant ne leur a été demandé et ils payent un loyer de 350 euros.
C'est vraiment très 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 bas comme loyer. Pour en réalité partager un moment de plaisir en étant avec Jérémy. Donc franchement, c'est gagnant de chaque côté, quoi.
Tu vois un autre aspect vraiment de tout ce qui est autour du handicap que tu vois pas du tout avant. Tu vois les problèmes au quotidien que ça engendre.
Le fait de m'occuper de Jérémy, je me rends compte que je suis beaucoup plus patiente. Pour moi, c'est comme mon frère.
Et justement, la sœur de Jérémy, Lucie, a le sourire. Elle se souvient des débuts quand son frère a terminé ses études en école de commerce.
Tout ça, ça a commencé du coup quand il s'est mis à travailler. Et on voyait bien que le modèle de vivre avec ses parents, ça collait plus, quoi. Il commençait à y avoir un décalage et d'avoir trouvé un peu la famille de substitution. C'est super enrichissant, comme il dit, donc je suis très contente.
Et suite à ce projet, l'association créée par les parents de Jérémy a aidé une dizaine de jeunes colocataires à obtenir un logement.
Et ces jeunes que vous avez rencontrés, Nerissa, quelles sont leurs attentes pour la campagne?
campagne présidentielle. Quels sont les sujets qu'ils voudraient voir évoqués par les candidats?
Eh bien, tous souhaiteraient un débat autour des aides financières accordées aux étudiants. Marie rêve d'être professeure des écoles, mais avec 200 euros par mois pour vivre à Paris, elle a dû abandonner ses études.
C'était très très dur en fait. Je devais faire de ma vie un combat pour avoir une année de fac. Ce qu'il faudrait, c'est plus de moyens. Et c'est sûr qu'être un étudiant et travailler en même temps, en mi-temps, et puis devoir faire des babysitting, etc., c'est extrêmement prenant.
L'autre revendication de ces jeunes, vous l'imaginez, elle touche au handicap et notamment à l'accessibilité.
C'est un manque de structure et de zones dédiées aux personnes en situation de handicap.
C'est pas possible qu'en 2021, à Paris, dans une ville qui est une puissance mondiale, il y a encore des toilettes pas accessibles dans les gares. Enfin, ça paraît un peu lunaire quand on y pense.
Enfin, tous aimeraient que d'autres colocations comme celle-ci voient le jour, mais pour cela, il faudrait des moyens.
Ma mère, elle a arrêté de travailler pour se consacrer à ce projet. Mais en fait, c'est juste pas possible de demander à toutes les personnes en situation de handicap d'avoir des parents, de la présence, autant sur le plan mental qu'économique. Il faudrait que toutes les personnes en situation de handicap aient cette chance-là. Donc d'avoir plus de ressources économiques et plus d'argent qui soit débloqué pour ça. Et tout ça, moi, je pense que ça passerait aussi par arrêter d'invisibiliser toutes les personnes en situation de handicap.
Un dernier point, l'écologie. Tous aimeraient que la défense de l'environnement soit au cœur des débats de la présidentielle.
Merci beaucoup, Narissa Emani. Il est particulièrement intéressant d'entendre ces sujets du quotidien qui semblent souvent ignorés par nos responsables politiques. Demain, nous irons près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, avec Franck Hanson. Dans un instant, on retrouve Laurent Gérard sur RTL.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
8h47, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves Calvi.
Voilà, c'est ça. Bonjour Mademoiselle Jade.
Yves Calvi, bonjour.
Voilà.
Bonjour à tous. Vous le savez, chaque soir sur RTL, Caroline Dublanche vient en aide aux auditeurs.
Oh oui.
Tous les sujets sont abordés sans tabou et dans la bienveillance. Voici un extrait de l'émission de ce soir en exclusivité.
Parlons-nous.
Bonsoir, ici Caroline Dublanche, votre carreau pour ceux qui se retrouvent sur le carreau. Vous êtes proche du gaz, je suis là pour vous. Prenons un premier témoignage. Marine nous appelle de Montretout.
Bonsoir madame. Je vous appelle parce qu'il y a un nain qui marche sur mes plates-bandes, madame.
Vous collectionnez les nains de jardin. N'ayez pas honte, Marine. C'est très joli, les nains de jardin.
Mais je ne parle pas de ça, madame. Je parle d'un véritable nain qui, après avoir été amoureux de moi et de mes idées, me pique mes électeurs, madame. Si ça continue comme ça, en mai prochain, je ne serai pas à l'Élysée, je serai à la rue, madame.
Souvent, les drames affectifs conduisent à la déchéance sociale, Marine. Ah, 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 je ne vous entends plus, Marine. Pouvez-vous baisser la musique?
Ah, c'est mon papa qui vient me déranger.
À qui parles-tu en cachette, ma petite fille?
À Caroline Dublanche, papa.
J'aime beaucoup ce nom. Du blanc, n'est-ce pas? Bien blanc. J'en parlais encore hier à mon ami Monsieur Zemmour.
Ça suffit, papa.
Si je résume, Marine, vous avez un problème de nain de jardin et un Oedipe mal réglé.
Vous ne comprenez décidément rien, madame. Je raccroche.
Après une courte pause, nous recevrons l'appel d'Éric, qui a des problèmes avec sa femme depuis qu'elle a lu Paris Match. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait mobiliser 400 millions d'euros pour le développement des industries culturelles. Bonjour, Madame Bachelot.
Mais oui, c'est moi la ministre de la Culture, c'est moi qui ai obtenu la rallonge et je fais ce que je veux, alors touchez pas au Grisby.
Vous voulez, je cite, une stratégie nationale d'accélération des industries créatives. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui,
aucune idée, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est les 400 briques.
Alors, mais justement, comment comptez-vous l'utiliser, ce budget exceptionnel de 400 millions?
On va faire du concret. On va offrir un shampoing sec à tous les artistes à cheveux gras. Une brosse à pellicule aux théâtreux, en chemise noire, un bonnet tout neuf aux intermittents, des bombes de peinture à nos tagueurs du RER et des cours de Cefran à tous nos rappeurs. Yo, yo, yo.
Voilà. Faire du boulot, hein.
Oui, vaste programme, en effet.
Yo, yo, yo.
Vous avez également annoncé que votre ambition était de répliquer pied à pied à l'invasion culturelle étrangère. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Eh bien, par exemple, si Jeff Koons dépose un de ses trucs en tôle chez nous, on lui installera la moto de Johnny posée sur un manche de guitare dans son jardin.
C'est un peu rude, ça.
Ah oui, ça calme.
Bah oui, comme vous dites. si le tagueur roast beef Bansky vient nous saloper un mur à Paris, on envoie l'artiste Ben graffiter du Hanaya Nakamura sur Buckingham Palace.
Hein, c'est vache, ça.
C'est vache aussi, oui. Et comme un nouveau James Bond vient de sortir, nous on sort à Capitaine Marlowe le 22 octobre. Voilà, voilà.
Il est temps de retrouver Pascal Pro qui s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Pascal, quels sont vos invités du jour?
Bonjour, oui, ce matin j'accueille une nouvelle tête en la personne de maîtresse Jacqueline, une redoutable dominatrice bien connue du milieu sadomasochiste. Ah bon?
Une dominatrice, mais pourquoi faire ?
Eh bien, elle sera chargée de mettre des coups de martinet à Laurent Geoffrin à chaque fois qu'il dira du mal de notre futur président Éric Zemmour.
Des coups de martinet, c'est rude, hein ?
Oui, et si ça suffit pas, elle lui enverra du 220 volts dans les nichons.
Oui, non, non, Pascal, on ne veut pas savoir. Donnez-nous plutôt le sommaire des auditeurs ont la parole à 13h sur RTL.
Eh bien, nous parlerons d'Éric Zemmour, qui monte dans les sondages et joue le rôle du caillou dans la chaussure des candidats de droite. Mais quel caillou ? Sera-t-il le caillou dans l'escarpin de Valérie Pécresse, le caillou dans le mocassin à gland de Xavier Bertrand, le caillou dans les Rangers de Marine Le Pen ou le caillou dans les Mephisto Maxi Confort à semelle absorbante de François Asselineau? J'attends vos réactions au 3210.
Ah, eh bien, merci Pascal.
J'ai pas fini, nous parlerons également d'un problème en ce moment pour les Français. Nous parlerons également de la hausse du prix du gaz.
Ah ben justement, je voulais en parler, moi.
Ah bah tiens, Jean-Marie Bigard, non, ça me fait peur. Que voulez-vous dire à ce sujet?
Ben écoutez, moi j'ai pas ce problème. Hein, moi je mange un cassoulet, je me fous un tuyau dans le cul
et j'ai
gratuitement le gaz. Hein, et c'est pour ça que je suis venu pour demander à Monsieur Lignac s'il n'y a pas une recette de cassoulet qui fait bien péter, le gars. Non, mais...
Voilà, voilà, voilà. Dans sa future émission Hôtel du Temps sur France 3, Thierry Ardisson interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin, François Mitterrand ou Lady Diana, déjà enregistré, ce sera bientôt au tour de Valéry Giscard d'Estaing de se faire interviewer par l'homme noir.
Salut les macabres, salut les bébés, salut les macabés. Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je ressuscite pour vous aujourd'hui le plus vieux de tous les présidents les plus jeunes. Ouais. Je rappelle à la vie l'homme à l'accordéon, Valéry Giscard d'Estaing.
L'accordéon, j'en fous très bon de l'accordéon. Et la France moderne, hein, c'est quelqu'un qui l'a faite. Hein. La DS à suspension hydraulique qui monte toute seule. Et le serpent monétaire, hein, c'est quelqu'un qui l'a inventé avec le Mouchmite. Hein. Et les conquêtes amoureuses. On en parle des conquêtes. On en parle des conquêtes. Bah, Marlène Jobert, je sais plus, c'est tout trop. La camionnette du laitier, Mireille d'Arc, François Giroud, Patricia Casse. Mademoiselle chante le blues, mademoiselle chante le blues. Elle est Indiana, ça Harry Tart.
Oh là 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 là.
Ouais, alors justement, VGE, sous tes airs de gland chauve qui fait du ski en cravate et qui s'assoit avec Bobonne au coin du feu, il paraît que t'as énormément baisé dans ta jeunesse.
Non, c'est pas possible.
Ma jeunesse, je parlais un peu moins, un peu mieux, à votre âge, j'avais encore la gaule, moi, j'avais pas besoin, j'avais pas de dentier, je me teignais pas les cheveux, et moi j'ai jamais pris de coke, hein. Je peux vous dire qu'à l'Académie française, au moment du goûter, ça emballait, hein. Les Marguerite Yourcenar, les Edgar Hardancos, et au Conseil constitutionnel aussi. À ce sujet, j'ai une anecdote avec Laurent Fabius et Alain Juppé.
Ouais,
alors je t'arrête tout de suite, mon Valérie. Faut y aller mollo parce que je te rappelle qu'on est sur le service public et qu'on peut pas tout dire. Ah oui? Oh, il fait sa chachotte, le bandoir. Quand il faut demander à Michel Rocard si je suis trompé, il fait son intéressant. Mais si on veut tout balancer, il n'y a plus personne. Je t'en foutrais, moi, des animateurs impertinents. Tiens, vous avez aussi réveillé Jeanne Calment. Elle m'a bien chanté avec moi. Fallait pas me ressusciter. Dis-son. Un peu de respect. Les oncles Clément. Dormir en paix. Si tu veux pas, qu'on te casse les dents. Prends ton dentier. Et fous-moi le camp. Espèce de nécrophile. C'est quoi ce nouveau service public? Pour payer sa ceinture. Il pile ses buts. Roi des couillons.
Oh là là, mon Dieu.
Ouh là là, comme vous dites.
On a des vacances nos amis, quand on nous mis.
Qu'est-ce qu'il a dit,
cher Générique.
Quel bonheur de vous entendre. Elle est ressuscitée.
C'est l'hôtel du temps.
Elle est revenue parmi nous.
Bon, voilà. C'est fait.
On va se reprendre.
Oui.
Oui. Accueillir Cyril Lignac dans un instant. Il va nous faire un carré de veau. Vous allez voir, ça va être super.
C'est pas facile à marcher. Non.
Merde. Non, allez, on va pas se lancer parce que c'est pas possible. Et on vous retrouve sur le site rtl.fr.
Et,
ben voilà.
Et à demain surtout.
Oui, à demain. Au revoir. Au revoir.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Corentin, il vit à Dourdan-la-Forêt. Il souhaite faire un carré de veau à la broche. Quelle bonne idée. Il nous dit, je souhaiterais avoir une recette de sauce pour accompagner la viande. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas le parti.
C'est une super recette.
Allez.
Alors on y va. On va faire une sauce à la crème parce que avec du veau, c'est bien de manger une bonne sauce à la crème. Donc voilà. Je fais revenir des échalotes avec du beurre que je fais caraméliser. Ouais. Ensuite, je coupe des champignons en lamelles. Je les mets à l'intérieur de la poêle. Pareil, je fais caraméliser, toujours avec ma petite noisette de beurre. Je déglace avec du porto rouge pour donner ce côté un peu sucré à la sauce et délicate. Je laisse bien réduire. On baisse le feu. Et au dernier moment, quand réduire, ça veut dire qu'il y a quasiment plus de liquide, mais quand même un tout petit peu, pour qu'on ait le goût, finalement, de cette réduction.
Marqué.
Exactement.
Oui, c'est des échalotes.
Des échalotes, voilà. Des champignons, et surtout ce petit porto-là, qui va nous donner ce bon goût de sauce. Et là, on ajoute la crème fraîche. Ouais. Alors, crème liquide ou crème épaisse, comme on veut. Si on fait avec de la crème liquide, on la laisse bien réduire pour que ça nappe la viande. Si on fait avec de la crème épaisse, ça va assez vite. On met une bonne cuillère dans la poêle, ça va fondre et là, la crème, elle réduit très vite. Donc, on arrête le feu et on arrose la viande avec cette bonne sauce.
C'est un très joli geste que vous voulez nous dire, ouais, Rose. C'est le geste du professionnel.
Je le vis, en fait. On était en train de dire... Oui. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un carré de veau.
On meurt d'envie.
Mais j'en meurs d'envie.
Bah, faites-nous un petit carré de veau, de ces jours.
Mais allez, pardi.
Ce serait avec bonheur.
Au four,
juste,
comme
vous,
ça.
Vous, personnellement, vous préférez la crème liquide ou la crème épaisse?
Moi, je préfère la crème épaisse.
J'en étais sûr.
Parce que je trouve qu'elle a un goût... un peu plus de campagne.
Plus marqué. Oui.
Ouais, un peu plus aigrelette. Là, je l'aime bien comme ça.
Ah là là.
Un peu de sel et voilà.
Formidable. Laissez réduire. Verser un peu de vinaigre balsamique de Modène. Rouge. Ça. Formidable. Merci Cyril. Rendez-vous sur rtl.fr/participer pour poser toutes vos questions. Vous qui nous écoutez, Cyril vous répondra. Il est 9h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point de l'actualité, Dominique Tenza.
D'abord, cette onde de choc que se prépare à affronter l'Église catholique alors que le rapport de la commission Sauvé sera dévoilé dans la matinée. Commission chargée d'enquêter depuis 2 ans et demi sur les abus sexuels commis depuis les années 50 au sein de l'institution. Le chiffre de 10 000 enfants ou adolescents victimes avait été avancé il y a quelques mois. Il pourrait être en réalité 10 fois plus nombreux. Salariés et chômeurs appelés à faire grève ce mardi et à manifester dans toute la France. À l'appel de la CGT, l'objectif, obtenir des réponses sur la question des salaires et remettre le social au cœur du débat à 6 mois de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron souhaite un apaisement avec l'Algérie à propos des sujets mémoriaux. Le chef de l'État qui veut parler, avancer dans ce dossier et faire en sorte que nos deux pays cheminent ensemble à nouveau, je le cite. Ces dernières semaines, les relations entre Paris et Alger s'étaient de nouveau tendues. Facebook et ses filiales Instagram et WhatsApp, victimes d'une énorme panne cette nuit durant plus de 6 heures. Des millions d'utilisateurs, et notamment en France, ont été privés d'accès à la plateforme. L'action du groupe a perdu 6% à la bourse. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a perdu, lui, 7 milliards de dollars en quelques heures. Et puis cette info RTL qui ravira les supporters de l'OM et tous les Marseillais qui souhaitent rendre un dernier hommage à Bernard Tapie. Sachez qu'une procession sera organisée après-demain, jeudi. Le cercueil partira des plages du Prado et sera transporté jusqu'au stade Vélodrome. Bernard Tapie qui a choisi d'être inhumé à Marseille. Ce sera vendredi. Ses funérailles auront lieu au cimetière Mazarque.
Dominique Tenza, laissons-nous tenter.